Nous sommes le jeudi 4... Oh, attends, non, excusez. Nous sommes le jeudi 4 novembre au soir 2021. Vous écoutez On a juste une vie, épisode 336. Je suis Narf.
Je suis Bla.
Je suis Anne-Marie.
Puis là, on a plein de jeux, là. Fait que je sais pas pourquoi qu'on niaise depuis tantôt, là. Comme,
Narf, faut parler aucune énergie, mais ça paraît même pas.
Mais non, là, on est en feu, là. Tout va bien.
Ah non, mais je me suis réveillé depuis tantôt, là. Comme,
ah, c'est
pas parce que j'ai fait 3 siestes aujourd'hui que je devrais fatiguer.
Après la 3e, c'est la bonne. Là, on est réveillé.
Mm-hmm. Sac.
Jamais 2 siestes sans 3.
C'est ça. T'as la dernière sieste qui est la 2e, puis après ça, t'as la sieste de trop. Après ça, t'es correct.
Ouais.
Fait que avant le podcast, on parlait de Bernard de Rome. Fait que là, on va arrêter de parler de ça, puis on va parler de vrais jeux.
De vrais jeux.
Mais là, ah tiens, je sais de quoi qu'on va parler. On va parler d'un jeu d'actualité. Parce que j'étais comme, j'avais pas prévu de quoi qu'on allait parler en premier. Comme
c'est le jeu de Bernard de Rome. Il parle des actualités dedans. C'est un simulateur de Bernard de Rome avec les actualités.
Oui. Est-ce qu'il y a Bernard de Rome, Anne-Marie, dans Darkest Dungeon 2?
Non. Ok, je pensais qu'on allait. Bernard. Je pensais qu'on s'en allait avec Metroid Dread, là. Non, il y a pas.
Non.
Non, un jeu d'actualité, Darkest Dungeon,
oh, ouais,
sorti comme la semaine passée.
C'est ça.
Ouais.
C'est tellement.
Metroid Dread, il est sorti le mois passé.
Ça fait presque un mois déjà.
Bon,
c'est vrai.
Que tu vois.
C'est vrai. Ben, en fait, Darkest Dungeon est en Early Access, donc il est même pas. Le Darkest Dungeon 2, il est en Early Access.
Oh, pour vrai?
Il est pas officiellement sorti, oui.
Ah.
Donc, il est pas tout. Il est pas tout encore dessus. Je me suis pas rendu si loin que ça non plus. Ben, c'est un roguelike, donc évidemment, ben, t'avances un peu, puis tu meurs, puis tu recommences, puis t'avances un peu, puis tu meurs, puis tu recommences. Fait que ça, c'est long de... J'ai pas complété une run complète encore, et puis je sais pas...
C'est pas un roguelike-like, là.
Ouais, c'est un roguelike-like.
Okay.
C'est encore plus un roguelike-like que le premier Dark... Avez-vous joué au premier Darkest Dungeon?
Non.
Non, j'ai juste vu des images un peu. On dirait que c'est un type de jeu où c'est beaucoup des choix.
Oui.
De la discussion, puis des inventaires, des magasins, puis les combats un peu traditionnels RPG.
Oui.
Ok.
C'est pas mal ça. Mais c'est que ça fait un bout de temps que j'ai pas joué au 1, puis j'ai de la misère à faire des comparaisons entre les deux justement parce que ça fait longtemps. Fait que si vous aviez joué au 1, vous auriez pu m'aider. Mais là, j'aurais peut-être bullshité parce que je me rappelle pas.
Non, mais, on est pas là pour te juger en tout cas.
mais oui, c'est ça, il est en early access. Il y a encore quelques petites affaires qui sont un petit peu placeholder, mais il y en a pas beaucoup, là. Il y a juste, j'ai rencontré juste une couple d'entrées dans le tutoriel qui apparaissaient puis qui étaient comme clairement des lignes de code.
C'est le Darkest Dungeon, mais ils ont pas fini d'enlever toutes les lumières, par exemple.
C'est ça.
Il est pas tout dark.
C'est ça, je ne sais pas qu'est-ce qui manque non plus comme contenu. C'est ça, j'ai pas complété une run encore. Puis je sais pas, contrairement au premier, combien de temps ça va prendre pour compléter une run. J'ai l'impression que dans le 2, ça va être plus rapide de compléter les runs. Dans le fond, oui, c'est comme un roguelike-like. Dans Darkest Dungeon, dans les deux Darkest Dungeon, t'as un party de 4 aventuriers qui doivent explorer. Dans le cas du premier, c'était plus comme vraiment explorer des donjons. Tandis que dans le cas puis tu revenais comme tu vas en expédition. Puis là, si tu survis, tu reviens dans une ville où là, tu prends soin de tes aventuriers, tu les guéris. C'est une des grosses mécaniques dans Darkest Dungeon, c'est que autant que la santé physique de tes personnages, la santé mentale de tes personnages, le niveau de stress de tes personnages, il faut aussi que tu guérisses parce que si t'en prends pas soin, ben ça s'accumule puis ça cause des problèmes. Donc c'est ça. Puis entre les expéditions, ben c'est ça, tu refais leur stock, leurs supplies, leur bouffe, leur lanterne, leur torche, etc. Parce que c'est The Darkest Dungeon et il fait très 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 noir, donc ça prend de la lumière. Il y a encore la mécanique de la lumière dans Darkest Dungeon 2, donc quand ta torche est forte et bien entretenue et brillante, et etc., ben les héros ont un bonus et potentiellement les ennemis ont des malus. Et plus la lumière diminue sur ta torche, ben plus les ennemis ont des bonus et c'est toi qui as des malus jusqu'à atteindre la noirceur complète dans ta torche, puis là, c'est vraiment des gros, gros malus pour toi, puis des gros, gros bonus pour les ennemis, puis ça va mal. Donc, dans le 1, c'était beaucoup une expédition, on retourne au village, une expédition, on retourne au village, puis au fur et à mesure de ta game, tu bâtissais le village, tu améliorais ton village, puis ça te permettait d'avoir accès à plus d'affaires, de mieux aider tes héros, puis de repartir faire des expéditions plus grandes, plus dangereuses, etc. Dans le 2, ils ont décidé de changer... donc, dans le fond, le combat se ressemble beaucoup, le art se ressemble beaucoup, l'espèce de mécanique de base se ressemble beaucoup, les classes se ressemblent, etc. Mais c'est le déroulement du jeu qui est différent beaucoup dans le 2. Donc, t'as plus de ville à laquelle tu reviens tout le temps. T'es en fait une charrette qui traverse une contrée désolée et dévastée avec tes quatre héros dedans. Oregon Trail. Ouais, genre, c'est comme le Oregon Trail du Darkest Dungeon. Ouais, fait que t'as ta lumière, donc t'as encore ta torche avec le système de lumière sur ta charrette qui traverse une contrée dévastée. Puis là, dans la même contrée, un peu comme quand tu te promenais dans les donjons avant, ben t'as des random encounters. Donc les random encounters peuvent être des combats, mais tu peux aussi rencontrer des paysans à aider, tu peux rencontrer des objets cachés, tu peux rencontrer des cryptes, des donjons, etc. Puis t'as des étapes où t'as des auberges. Puis là, à l'auberge, c'est là que tes aventuriers peuvent se reposer, prendre soin d'eux autres, rafraîchir leurs supplies, etc. Puis tu repars. Mais dans le 1... Mais là, c'est que les auberges, tu peux pas les upgrader, parce que c'est toujours une auberge comme différente que tu vas à chaque fois. Donc, y a pas le système d'améliorer un espèce d'endroit où tu reviens tout le temps. C'est plus comme un périple à étapes. Mais ça fait que les games sont plus courtes que dans le premier. Fait que je sais pas, j'ai l'impression qu'on a comme essayé de garder le même... comme le même feel puis le même univers, mais d'essayer d'un deuxième déroulement de jeu. Fait que ça fait vraiment des... Parce que dans Darkest Dungeon 1, j'ai joué pas mal plus longtemps que j'ai joué aux deux en ce moment, puis je pense que j'ai fait genre deux ou trois games. Parce que c'est long, parce que même si tu perds des aventuriers, ben tu reviens en ville, puis tu peux recruter des aventuriers pour remplir les trous dans ton... Dans ta team, puis tu peux juste ben recommencer.
Les perds pour toujours.
Oui, quand tu perds des aventuriers, tu les perds pour toujours. Mais dans Darkest Dungeon 2 aussi, tu les perds pour toujours. Sauf que, contrairement au premier, dans chaque classe, mettons-le, mettons qu'il y a le voleur, puis le chevalier, puis le plague doctor, puis la barbare. Mais là, si t'avais une barbare pis qu'elle meurt, ça se peut que tu reviennes au village pis y a une autre barbare qui cherche de la job pis là tu l'engages pis ça devient ta nouvelle barbare, tu sais. Mais là, dans le 2, chaque classe, c'est comme un personnage à part unique pis s'il meurt, il meurt. Pis t'en as pas d'autres. À part si tu unlocks des nouvelles classes, là tu vas revenir, la prochaine fois que tu vas être à une auberge, il va y avoir un nouveau personnage qui va chercher de la job qui est une classe que t'avais pas encore intégrée à ta team. Fait que là tu peux continuer avec celui-là, mais sinon si tu parles le chevalier, il y en a un chevalier, il s'appelle genre il y a un petit nom de chevalier, puis je me rappelle plus, il s'appelle genre Gontran, mettons là, il y en existe un Gontran, super Gontran, il est fini, puis il y en a plus d'autres Gontran, puis il y a personne d'autre qui est chevalier genre. Fait que comme ça les games sont plus courtes, puis tu peux pas juste continuer à renflouer ta team avec du nouveau monde moins stressé puis moins magané. Parce que Darkest Dungeon, c'est vraiment tout à fait le genre de jeu où tes personnages, s'ils se sont fait trop péter la gueule, ben là, ils vont être estropiés, puis ça va être un malus qu'ils vont avoir tout le temps. S'ils ont été trop stressés, ben ils vont prendre des traits, des maladies mentales, ils vont devenir kleptomales, ils vont devenir neurotiques, ils vont devenir avoir peur de la mort. Il y a comme énormément de traits positifs et négatifs que tes personnages peuvent avoir, pis c'est super important. Comme quand j'ai booté Darkest Dungeon 2 le jour de l'Halloween, je joue dimanche passé, c'était vraiment le fun. Je l'ai booté, la première, une des classes que je pogne, c'est comment t'appelles ça? Tu sais, la personne qui déterre des tombes, là, pour voler le stock qu'il y a dedans, là. Une looteuse de tombes, là.
Pilleur de tombes.
C'est ça, une pieuse de tombes. Puis crime, la première pieuse de tombes que je pogne, elle a peur des cadavres. Fait que là, à chaque fois qu'il y a un cadavre, mettons que quelqu'un meurt dans un combat, etc., ben là, on va avoir peut-être un round de frousse ou un tour de que elle a peur, elle a plus de stress ou etc.
Le vrai Mary Sue, là, c'est comme l'histoire de la vampire qui a peur du sang.
Genre, c'est ça, c'est super ironique, là. Mais ça, c'est un malus, là, peut apparaître sur n'importe qui, là.
Ouais.
Puis ouais, c'est ça. Fait que pour la progression, une des grosses, grosses différences que dans Darkest Dungeon 2, plus c'est ça, je... Mais semble qu'il n'y a pas ça dans le 1. Mais semble que dans le 1, quand tu finis ta game, puis tu recommences à zéro. Genre, t'avais le temps d'upgrader ton village, puis tout, puis ça, ça reste pas. Quand tu recommences, puis tout est niveau zéro, puis tous tes bonhommes sont niveau zéro, puis tu recommences dans les expéditions les plus faciles, parce que tes bonhommes, tu recommences à zéro, puis c'est de la merde, anyway. Tandis que là, dans le 2, vu que c'est ça qui fait que c'est plus un roguelike-like, ils ont intégré un système de progression par profil de joueur. Fait que, mettons, profil, c'est moi qui joue sur cet ordi-là, mettons. Ce qui fait que à chaque fois que tu fais une run, t'accumules de l'espoir, des points d'espoir, qui est comme ton XP de profil, et tu débarres des affaires dans ta game qui vont être là pour toutes les prochaines games, pour toutes les prochain tour de roguelike. Donc, il y a beaucoup de roguelike qui font ça maintenant, et c'est ça. Ils ont intégré ça dans le 2. Fait que c'est pour ça que je disais, dépendamment combien t'as unlocké de classes, ben c'est ça, au début, t'as accès à 4 classes de personnages, plus je suis rendu avec une 5e, puis plus je vais jouer, plus je vais avoir de classes différentes. Fait que ça fait qu'à chaque fois que je vais perdre des joueurs, ben après ça, à l'auberge, il y en a un autre personnage qui va m'attendre. Mais c'est ça, si j'ai bien compris, si je perds le chevalier, il y en a plus. Mais mettons, le chevalier pis la barbare, c'est deux tanks. Fait que, en général, je choisis l'un ou l'autre. Fait que, si je perds le chevalier, il n'y en a plus. Mais là, la barbare va m'attendre à la prochaine auberge. Genre. Fait que je pourrais renflouer un peu mon équipe comme ça. Mais encore là, pour ceux qui ont joué beaucoup à Darkest Dungeon, des fois, si tu commences, aussitôt que t'en perds une couple, le restant du fight, les autres vont pas te faire. Ou sinon, t'en perds un, puis là, ça cause un choc traumatique à tout le monde, puis là, ça fait dépasser leur limite de stress, fait que là, ils ont tous un choc nerveux parce qu'ils ont dépassé leur limite de stress, puis ils se ramassent tous à être complètement fous, puis là, ça fait juste un espèce de bordel de gens qui sont genre « Mon ami est mort! On est dans un donjon, il fait noir, on sortira jamais d'ici! » Puis ils sortent pas d'ici.
Comment est-ce qu'ils font pour contrer la feedback loop positive, c'est-à-dire la... Genre, quand ça commence à aller mal, ça fait que là, ça va plus mal, puis là, ça va de plus en plus mal.
À date, je trouve que le 2, il est moins pire là-dessus, là. Dans le 1, c'est l'enfer. Aussitôt que t'en as un qui commence à aller mal, là, t'en as un quelque part qui a genre peur des gens qui ont des maladies mentales, t'en as un à côté qui a peur du sang, pis t'en as un à côté qui a peur des cadavres, pis là, poup, 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 là, tout le monde capote. Une des façons qu'ils faisaient pour contrer ça, c'est que des fois, en ayant un choc nerveux, ça peut donner quelque chose de positif plutôt que quelque chose de négatif. Des fois, la personne peut faire comme... Genre, ok, non, Je réalise que c'est vraiment dur la vie pis qu'il faut que je mette les bouchées doubles pis ok, on continue! Rah! Pis les trois autres à côté sont complètement névrosés pis ils serviront plus à rien, tu sais. à date, je trouve que le 2 il est un petit peu moins pire. Ce que le 2 ajoute que le premier avait pas, que je trouve vraiment cool, c'est des relations entre tes personnages. Donc là, justement, vu que t'es pas constamment... Parce que dans le 1, tu pouvais avoir un roster de plusieurs personnages pis là t'en sélectionnes 4 pour partir en expédition, mettons. Pis souvent les autres ils restaient sur le bench parce qu'ils étaient trop névrosés là, fait que t'es laissé à genre l'hospice pendant 2-3 expéditions le temps qu'ils filment, ou au bordel, ou en tout cas chacun son trip, le temps qu'ils filment mieux,
chacun aux techniques.
Oui, mais sont toutes ça faisait partie de leur quip là, genre de leur quirk.
Ah, ok.
Ouais, il y en a qui préféraient aller à l'église, il y en a qui préféraient aller à l'hospice, il y en a qui préféraient jouer, boire. Mais là, si tu le fais tout le temps boire, à un moment donné il va juste développer le quirk je suis un alcoolique, pis t'sais, dans un sombre donjon, mais il y a pas assez d'alcool pour moi, fait que si ça fait trop longtemps que je suis parti, le gars il y a le shake là, tu sais. C'est tout à fait le genre de jeu qui va juste inventer toutes ces affaires-là possibles, pis t'es comme, oh fuck. Mon personnage, j'ai la syphilis, pis en plus, il est alcoolique. parce qu'il y a des maladies. Pis il me semble qu'il était là dans le 1 aussi, les maladies. Je suis pas sûre.
Est-ce qu'il y a la dysenterie?
Tu sais comment. Oui, je suis sûre que oui. Il y a quelque chose du genre. J'ai pogné la...
Si c'est une charrette qui se promène comme dans Oregon Trails,
oui.
Dans la dysenterie.
J'ai pas eu la typhoïde. Puis l'autre, je m'en rappelle plus c'est quoi. La lèpre, je pense. Ouais. ouais, je trouve que le feedback loop est moins pire, mais il y a quand même énormément de feedback loop. Un truc qui est intéressant, ben, ce qu'il y avait dans le 1 aussi, quand tu te promets avec ton expédition, des fois les personnages allaient dire quelque chose ou ressentir quelque chose, je pense, dépendamment à ce que tu rencontrais sur le chemin, là. Je sais pas, mais si tu rencontres une espèce d'hôtel démoniaque avec des chandelles pis des bols de sang partout, pis ben là, pis ça donne que t'as un personnage très religieux, ben là, ça se pourrait qu'il filait pas en voyant ça, fait que là, ça fait monter son stress. Mais là, c'est pareil, tu te promènes dans la charrette pis les personnages font du banter entre eux autres. pendant que t'es dans la charrette, puis ils s'influencent entre eux autres. Fait que, mettons, justement, tu te promènes dans la charrette dans ce paysage complètement dévasté, rempli de cultistes, puis il y en a un dans la charrette qui dit « On sortira jamais d'ici de vivant », puis là, tous les autres sont genre « Oh, fuck, t'as raison! » mais le côté positif fonctionne aussi, là, de temps en temps, tu peux te promener, puis t'es comme... Il y a des personnages qui est comme, ben, si je pourrais être pogné là-dedans, au moins je suis contente d'être pogné là-dedans avec vous autres. Puis les autres sont comme, oh yeah, fuck yeah. fait que c'est ça, dans le 2, vu que les personnages sont beaucoup moins, alors c'est ça, je veux dire, vu qu'ils sont comme beaucoup moins interchangeables, jetables, pis t'as vraiment comme ta team, pis qu'il y en a un de chaque classe, ils peuvent développer des relations entre eux autres. Donc, comme deux par deux, chaque personnage, fait que là, vu que t'en as quatre, ben là, chaque personnage dans son tableau de relations, il y a comme tout le temps les trois autres. Ils vont développer des relations, que ce soit en se parlant, dépendamment de leur quirk. Fait que des fois, il y en a qui peuvent être plus ou moins compatibles avec les autres, comme j'en ai un. Dans cette game-ci, je suis pas sûre que j'ai compris ce que ça faisait, là. J'en ai un qui est Chatterbox. Il never fucking shuts up. Genre, il est tout le temps après parler. Sauf que c'est ça, ce qu'il dit, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Puis ben, ça peut faire en sorte qu'il y en a d'autres qui sont comme, ah, oh, ta gueule. Genre, on est pognés ensemble dans une charrette pendant 3 heures. Ta gueule! fait que, dépendamment de leur quirk. Ouais, c'est ça. Fait que c'est des différences subtiles. Mais, surtout.
C'est l'âne dans Shrek.
ouais, c'est ça. Mais surtout en combat, pour changer, augmenter leur relation, ça va être en combat, là. Si, mettons, par exemple, le chevalier, il peut protéger quelqu'un avec son bouclier, ben, souvent, ça va comme augmenter sa relation avec cette personne-là. C'est un peu comme à la Fire Emblem, c'est juste qu'au lieu que ce soit quelque chose de systématique, je pense que c'est comme random. J'ai l'impression que c'est un lancer de dés, puis genre, ça se peut que ça donne de quoi, ça se peut que ça donne rien. Fait que c'est ça. Mettons, s'il y a un monstre qui vient de faire ben du dégât, au Highwayman, pis là, le chevalier tue le monstre qui vient de faire bien du dégât au Highwayman, là, ça se peut que ça monte sa relation avec le Highwayman parce qu'il l'a comme vengé. Genre, pis là, ça se peut qu'ils disent de quoi ensemble, là, ça se peut qu'ils fassent comme « Haha, je t'ai vengé », pis l'autre, il est comme « Yay », pis tu vois, poupoum, t'sais, plus un point de relation. Mais évidemment, parce que c'est Darkest Dungeon, ben ces relations-là vont dans les deux sens. fait que les deux personnages peuvent commencer à se faire chier, ou sinon, justement, il y a un monstre presque mort, t'as un personnage qui le tue, pis là, il y a justement la voleuse de tombe à côté qui est comme « c'est parce que ce kill-là, il est à moi. » Genre, t'as volé mon kill. Fait que là, t'es comme « Fuck you », genre, tu pourrais-tu comme pas être mad, genre, pis qu'on est vivant, là, genre. Pourriez-tu être positif un peu des fois? Parce que c'est un truc comme Darkest Dungeon, c'est vraiment le fun. Mais je veux quand même mettre un trigger warning pour les gens qui pensent jouer par rapport au négativisme puis au suicide. Parce que comme le but, c'est que ça soit grimdark. Le but, c'est que ce soit un donjon qui est le plus sombre pis dont on sortira jamais. Fait que ça arrive vraiment que les personnages sont comme « On sortira jamais d'ici! J'aurais jamais dû accepter ça! Ah, fuck vous tous! » Fait que c'est un peu... c'est parfois un peu négatif. Plus surtout, c'est ça, quand ils atteignent leur limite de stress, ils ont un mental breakdown. Pis c'est ça, c'est rare que c'est positif. Généralement, c'est négatif. Dans le 1, les mental breakdowns, il me semble que ça leur donnait tout le temps un point négatif. Dans le 2, ce que ça fait la plupart du temps à date, c'est endommager leur relation avec tout le monde. Donc, les relations avec les gens, c'est un peu comme les breakdowns aussi, il y a des niveaux. Donc, quand tu remplis toute la petite jauge de positif, là, t'atteins une nouvelle relation qui est positive. Puis là, au début, t'es comme neutre, puis après ça, tu remplis la jauge, puis là, t'as comme un nouveau degré de la relation. Fait que là, ça peut être on est relié par l'espoir, parce qu'on a un espoir qu'on va réussir en un monde nouveau, haha. Puis là, ils donnent tout le temps des messages d'espoir, puis ils se boostent l'un l'autre. On est lié par le respect, genre, je te respecte, je trouve que t'es badass, puis tu fais bien du dégât. Puis là, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait un crit, puis là, son ami est comme « Yeah! » Tu l'as eu, pis là, poup, ça leur donne des points. Ou ils peuvent devenir amoureux. Pis là, c'est tout le temps genre, c'est toi et moi contre les méchants, haha, je te protège, ou, non, je ne veux pas que tu meurs aujourd'hui, j'ai assez perdu de gens, poupou, pis plus 8 points de vie, genre, là, t'es comme, yeah! Parce que les PV, c'est tellement fucking rare dans ce, tout est rare, là, dans ce jeu-là, là, tu sais, c'est pas facile, là, fait que, aussitôt qu'il y en a un qui aime l'autre, pis il est comme, ne meurs pas aujourd'hui, chérie, pis là, poupou, 8 PV, genre, ouais, fuck yeah! Power de l'amour! Mais, inversement, si il arrive trop d'affaires, puis surtout quand il n'y a pas de lumière, ou que les gens ont des quirks de plus en plus difficiles, ils se tapent ses nerfs l'un l'autre. Fait que là, c'est ça. Ça fait qu'en combat, il y a quelqu'un qui va voler un kill de l'autre, puis t'es comme, c'est ça, hein, t'essaies de voler ma gloire, fuck you. Puis si la jauge, elle se remplit dans le négatif, là, ils peuvent devenir justement comme némésis. Ils peuvent devenir du monde qui se tape ses nerfs. Puis comme... Ça m'est arrivé une fois que la lumière était vraiment en basse, puis que le monde arrêtait pas de pogner des affaires de relations négatives, là. C'est bad, là. Il y a un personnage qui arrive pour attaquer, puis là, la Gravedigger est en arrière, puis elle se dit, tu vas le manquer. Puis là, il veut plus attaquer parce qu'il est comme, fuck, je vais le manquer. Genre, fuck! Genre, il a perdu son tour juste parce que la bitch en arrière a fait genre, tu vas manquer ta shot. Ah! Fait que c'est super intéressant. C'est sûr que c'est pas un jeu pour les gens qui aiment ça absolument tout calculer pis qu'il y a absolument rien de random, là. Darkest Dungeon, ça va être rempli de cossins random qui vont arriver comme ça pis t'es comme, mais pourquoi, tu sais, pis c'est, le pourquoi, c'est juste parce qu'en fait, il y a probablement un 20% de chance qu'il se passe quelque chose de positif, 20% de chance qu'il se passe quelque chose de négatif, puis le restant, c'est ton attaque normale. Puis là, dépendamment du niveau de la lumière, puis dépendamment comment tout le monde file, puis dépendamment des quirks de tout le monde, des relations de tout le monde avec tout le monde, de là, ça joue tous ces chiffres-là, comme, tu sais, oui, c'est des chiffres-là, mais ça fait juste que, comme, tout le temps, plein d'affaires random qui se passent. Mais moi, j'aime ça. Genre, moi, j'aime ça que ça rajoute, genre, c'est spicy. Ça rajoute du spicy dans le...
Ça a l'air 10 fois meilleur que ce que tu peux voir quand tu regardes juste quelqu'un qui joue. Ouais. Donc, tu peux pas comprendre.
Ah, ben, je sais pas, moi, j'ai beaucoup appris Darkest Dungeon 1 en regardant quelqu'un jouer, mais comme one-on-one, là, en étant dans la pièce avec lui.
Ouais,
là.
OK.
Ouais. Tu sais, qui me racontait justement ses personnages. Puis
c'est ça, au moins que t'as la logique de ses décisions. C'est quoi que tu peux faire pour améliorer ton sort? Comme, on dirait que les personnages interagissent beaucoup entre eux-mêmes, mais qu'est-ce que tu peux faire comme pour les aider?
Hey, c'est tricky, je veux dire, bien joué.
Arrêtez de jouer.
Non. Mais ça reste un jeu de combat tactique tour par tour. Ben, pas vraiment tactique, là, mais c'est un RPG tour par tour, là. Fait que, tu sais, comme juste bien jouer puis faire la meilleure affaire, t'assurer que ta lumière est tout le temps élevée, ça a l'air vraiment
beaucoup. Tu fais ça comment, par exemple?
Donc, quand tu te promènes, dans le ouais, c'est vrai, j'ai pas expliqué ça. Les expéditions, là, mettons d'une auberge à l'autre, là, parce que c'est pas mal tout le temps comme d'une auberge à l'autre, c'est à l'auberge que tu te reposes sur ta ravitaille, etc. D'une auberge à l'autre, t'as un parcours que tu fais avec ta charrette, puis le chemin il bifurque souvent. Puis tu sais pas tout le temps qu'est-ce qu'il va avoir au bout du chemin ou ce que ça bifurque, mais il y a des objets, puis il y a des trucs qui te permettent d'éclairer, puis de faire l'éclaireur, là, d'avoir une idée. Tu peux équiper ta charrette, là. Il y a des équipements à mettre sur ta charrette qui vont, genre, te dire d'avance comme quand tu vas croiser quelque chose, etc. Puis tu peux croiser de temps en temps des tours de garde qui vont te permettre de mapper le restant de l'expédition qui te reste, etc. Fait que tu peux prendre des décisions un peu... fait que tu peux... Souvent, tu le sais... Bon, c'est sûr, sur ton chemin, il va y avoir des affaires random, il va y avoir des attaques random, etc., là, mais c'est surtout comme la chose pertinente qu'il y a dans cette branche de chemin-là, ça va être souvent un combat ou des paysans à aider, ou une crypte ou un donjon, ou un marchand. Ou du loot. À date, ça ressemble pas mal à ça. Puis c'est ça, la torche, ben ta torche est pleine quand tu sors de l'auberge, puis elle baisse à la longue, puis elle peut baisser... en fait, je sais pas trop qu'est-ce qui fait baisser la torche plus vite que moins vite, honnêtement. Mais en jasant avec des paysans, souvent, ils vont raviver ta torche. Sauf que ce qu'il y a de nouveau, en tout cas, je suis sûre qu'il y avait ça dans le premier, d'avoir vraiment des discussions comme ça, là. Mais maintenant, quand tu croises des gens avec qui tu peux avoir une discussion, justement, là, il y a vraiment plusieurs options que tu peux faire. Puis dans le fond, c'est que chaque aventurier va proposer une option. Il y a des aventuriers qui vont rien proposer, ça se peut qu'il y ait rien à dire sur cette interaction-là, mais sinon les autres vont te proposer quelque chose, puis là, dépendamment qui tu choisis, là, ça augmente les relations avec les autres gens, parce que c'est son idée qui a passé, puis voilà. Bon, il y a tout le temps de quoi qui change les relations de tout le monde, là, mais surtout avec les paysans, il va y avoir des aventuriers qui disent genre « Non, laisse-les crever, on s'en va ». Il va y avoir des aventuriers qui disent « On leur donne tout notre argent, ils font tellement pitié ». Mais là, en échange, les autres vont te donner de la bouffe, des items, de la flamme, etc. Tu peux passer du temps à les aider, mais là, ta flamme, elle meurt pendant ce temps-là. Mais les autres peuvent te donner des objets. Ou, au contraire, tu peux les payer pour qu'ils ravivent ta flamme. Fait que c'est vraiment des décisions à faire, là. Ouais. Puis aussi, c'est les combats... Il y a des moments où tu peux, justement, quand c'est comme l'objectif à la fin du tronçon de chemin que tu fais, là, puis tu vois qu'à la fin de ça, il y a un combat, ça se peut que t'ailles pas à le faire, tu peux choisir de pas le faire des fois, s'il y a un personnage qui dit genre « Non, moi, je pense qu'on devrait passer tout droit. » Mais il y a un avantage à faire des combats, parce qu'à chaque fois que tu vas à une auberge, il y a quelque chose qui monte, qui s'appelle le « loathing », qui est une jauge. Je sais pas qu'est-ce que ça fait quand elle atteint le bout, mais ça a de l'air pas fin. C'est comme des petites faces de démons dans une jauge. Mais là, à chaque fois que tu tu fais des combats, ça baisse cette jauge-là, probablement parce que tu pètes des cultistes, là. qui sont peut-être pas en train de summoner un Elder One, là. Ça ressemble à ça, là. Ça ressemble à genre, si tu laisses la jauge aller pis que t'as regardes pas pis qu'elle fait juste monter, à un moment donné, les cultistes, t'es jamais pété. Parce que si la jauge, elle descend jamais, c'est parce que tu te bats jamais contre personne. Fait que là, ils vont summoner some shit, je sais pas. Il y a beaucoup de, ouais, je dis ça pis je réalise qu'on dirait qu'il y a beaucoup de jauge à gérer. C'est quand même bien fait. Je trouve que il y a beaucoup dans le combat. C'est ça, je me rappelle pas si c'était si pire que ça dans le 1, mais j'ai l'impression que dans le 2, il y a vraiment beaucoup plus de status effect à gérer.
Si tu fais ton best puis tu joues normalement, naturellement, tes jauges devraient être pas si pires.
Oui, mais il faut juste comprends. que tu portes attention à tout, dans le fond, là. C'est pas si pire. Ou sinon, tu vas juste mourir, mais on va tous mourir comme c'est un roguelike, là. Tout le monde va mourir. Tu vas recommencer. Mais le jeu, il te le dit. Quand tu commences dans Darkest Dungeon, il te dit genre, si c'est un roguelike. Ta première game, tu vas mourir. Tu penses pas que tu peux battre le jeu de suite. Là. Pis surtout que là, vu que le 2 te donne de l'XP pis améliore ta game à chaque fois que tu recommences, c'est sûr que tu peux pas gagner la prochaine fois parce que t'as même pas unlocké d'équipement qui a l'allure. Comme dans ta première run, la meilleure bouffe que t'as, c'est du pain moisi. Pis là, quand tu refais un peu d'XP pis tu recommences une autre run, là, la meilleure bouffe que t'as, c'est genre du pain pas moisi.
Wow.
C'est comme t'unlocks la qualité des objets, genre t'unlocks des nouvelles qualités d'objets, fait ça veut pas dire qu'ils vont dropper, mais ils font partie de l'éventail de drops que tu peux avoir. Fait que mettons juste des items, des artefacts, des amulettes à équiper tes personnages de meilleure qualité, ben ça fait que dans ta deuxième run, à chaque fois qu'il y a une amulette qui drop, t'as une chance que ça soit une plus rare, plus légendaire, etc. Tandis que dans ta première run, t'as que les amulettes de merde, le premier niveau. Comme le but, c'est de te faire expérimenter le jeu, puis que tu fasses des runs, que tu meurs, puis que tu recommences. Ouais, je sais plus c'était quoi la question, mais... Oh, ouais, la complexité du combat. Ce que j'aime dans le 2, c'est qu'il y a un petit piton que tu peux cliquer, puis dire tous les petits symboles, ils veulent dire quoi dans le combat. Plus c'est mille fois mieux, là, genre, ça allège vraiment l'interface de combat, parce qu'il y a plein de petites icônes pour, genre, si ton personnage est en train de garder, s'il est vulnérable, s'il est aveugle, s'il est sous terreur, puis là, ça augmente son stress. S'il y a une riposte qui fait que la prochaine personne qui l'attaque, il va répliquer, etc. Fait que là, c'est comme tous des petits symboles, puis tu peux juste peser sur G vite, jouer avec mon clavier, là. Je peux juste peser sur G vite, juste pour voir comme les petits symboles, ils voulaient dire quoi déjà, puis là, avoir comme une explication exactement sur c'est quoi la riposte. Ça fait que la prochaine fois quelqu'un l'attaque, il y a 50% de chance de faire une attaque normale, etc. Fait que le combat, c'est beaucoup, beaucoup du jeu quand même, c'est le combat en tour par tour. Fait que tu sais, oui, c'est pas juste des décisions, faut que tu excelles quand même un peu au combat pour pas perdre ton monde, puis t'sais, c'est sûr, quand ils se font tout le temps blessés, ben là, ils sont plus stressés, puis ils sont plus malheureux, puis tout va mal, puis ils se mettent à blâmer leurs amis à côté, là. c'est ça le contexte, là.
Beaucoup plus profond que juste comme une barre de sanité, comme dans Don't Starve, je sais pas, là.
Oui, mais c'est une barre de sanité.
C'est pas le même but, là, mais...
C'est une barre de sanité. Je ne sais plus ce qui se passe. Je pense qu'elle fait juste... Avant, il me semble qu'il y avait plusieurs levels de sanité dans le 1. Mais là, je pense qu'un coup que t'as un mental breakdown, là, ta sanité a fait juste recommencer à zéro. C'est juste que là, il est arrivé de quoi de terrible. Genre, peut-être que ton personnage est devenu kleptomane. Ou j'ai peur de quelque chose.
Tu t'en tires quand même bien, là, si ton personnage, il est juste kleptomane, je pense.
Oh, mais ça, dans le 1, c'était de la merde parce qu'il se mettait à voler le loot des autres. Puis les autres s'en rendaient compte, puis ils étaient vraiment fâchés.
Ouais.
C'était ça que ça causait des problèmes, là. Où ils volaient des kills, ou. Oh
c'est,
non, je pense que.
Bizarre comment c'est un peu comme la vraie vie, là. Comme
ouais.
Les personnages ont vraiment l'air un peu vivants.
Je pense que ça y arrivait que, mettons, que tu vois un gros, gros, gros coffre barré dans un donjon qui a de l'air un peu ominous, puis qui a de l'air un peu beaucoup trop riche, puis beaucoup trop. Beaucoup trop comme quelque chose que quelqu'un laisserait pas abandonner dans un donjon. Plus, si tu prenais l'option « Non, je ne vais pas ouvrir le gros, gros coffre qui est clairement fucking piégé », Là, ton kleptomane, elle est derrière toi, pis fait comme, oh my god, le coffre! Pis là, il l'ouvre. Pis là, ça lui pète d'en face. Ça des affaires, mais c'est ça, tu sais. Fait que pour les gens qui aiment ça, absolument tout contrôler dans un jeu, je pense que Darkest Dungeon, c'est pas pour eux autres. Moi, j'aime beaucoup ça, voir le, mon personnage, c'est un chatterbox, je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Ah, il arrête pas de parler. Ah, il y a un autre personnage qui est sacré une baffe parce qu'il arrête pas de parler. Tu sais, je suis juste comme, c'est drôle, tu sais. fait que ça dépend vraiment du genre de joueur que t'es, là. Le...
On dirait c'est comme torturer des Sims.
Un peu, ouais. Je trouve ça vraiment drôle, le banter dans la charrette quand tout le monde se promène, là, parce que c'est comme genre... Oui, quand tu commences, la seule bouffe que t'as dans ta première game, c'est du pain moisi. Puis si tu décides... Mettons que t'as un personnage qui est vraiment blessé, qui arrive à l'auberge, puis pour le guérir, au lieu d'avoir comme des outils de chirurgie ou quoi que ce soit, tu décides de prendre 8 tranches de pain moisi puis d'y crisser dans le fond de la gueule, et développe une mauvaise digestion. Plus ça fait que les items, ils font peut-être moins... Mais tout ce qui est marqué dans mauvaise digestion, c'est que les items ont moins de chances d'y faire un effet bénéfique, mais dans l'expédition suivante, en se promenant dans la charrette, à un moment donné, il y a un bruit, puis à un moment donné, il y a un personnage qui fait genre « Oh! » Là, toute la relation de tout le monde baisse avec ce personnage-là. C'est pas écrit, là. Mais ça le fait.
Vu que tu lui as donné 8 tranches de pain moisi, là, il y a comme le colon irritable ou quelque chose.
C'est ça. Puis là, toutes les autres sont poignées d'une charrette avec pour 2 heures de temps, tu sais.
Pourtant, une charrette, c'est bien aéré.
C'est de vrai.
D'habitude.
Je sais.
Des fois, il mouille, puis il faut que tu ailles comme dans la toile de la charrette, que là, c'est humide, puis tout.
Ça ouais, ben des fois, de voyager, des fois l'environnement est vraiment dégueulasse tout le tour là, fait que je présume qu'ici ils ont des petites fenêtres, ils vont essayer de les fermer là. Et dans les environnements que j'ai visités à date, il y a une espèce de ville en ruine avec du feu partout puis des cultistes qui sacrent le feu dans des piles d'olives.
Moi, je
peux pas croire. Oui, il y a une espèce de champ. De ferme, mais comme tout moisi, tout dégueu. Il y a une espèce de souterrain avec des hommes cochons qui t'attaquent. C'est vraiment grim. C'est très, très grim. J'avais pas lu le chat. Ouais, moi aussi, je trouve qu'il y a plus de bonus. Parce que c'est ça, là, tu parlais de la sanité, puis je me rappelais vraiment que dans le 1, aussitôt qu'un personnage se mettait à capoter, après ça, tout le monde avait un mental breakdown. Là à date, je trouve que c'est vraiment pas si pire. Mais j'ai vu des personnages passer de genre... Oh, on est vraiment amis, on est vraiment body-body à, genre, justement, la Gravedigger qui est dans le dos du chevalier pour lui dire, genre, tu penses que t'es un leader, mais dans le fond, tu l'as pas tout. Puis il est pas capable de jouer son tour. Je suis comme, fuck! Fuck! Ta gueule! mais c'est ça l'affaire, c'est que quand c'est un bonus, c'est complètement malade. Genre, quand il fait un maudit bon coup, puis Claude est comme, oh yeah, fuck yeah, j'en profite, puis moi aussi, j'attaque en même temps que toi, puis les deux personnages attaquent en même temps, puis ça arrive jamais qu'il y ait comme un tour de plus, tu sais, puis là, le monstre, il meurt, t'es comme, voyons, fuck, ça fait vraiment... Tu sais, comme, c'est une affaire que j'aime bien aussi dans le jeu, c'est que tous les chiffres sont pas tant gros, puis tout est important, genre, comme... Toutes les attaques sont importantes. C'est pas un Japanese RPG non plus avec des chiffres de genre tu heal de 256 puis c'est ton petit heal. C'est comme là, te guérir de 2 points de vie là, ça paraît genre ça peut faire une différence dans le fight là. Fait que toutes les petits détails peuvent vraiment faire une différence. Ouais, toutes les attaques font une différence.
Dungeon dans le nom, c'est comme une référence à Dungeons and Dragons on dirait. Il y a un choix d'être plus proche de ça que d'être près de d'autres types de RPG, on dirait.
Effectivement.
Ouais, juste ouais. Dans les relations de personnages, là, qui est comme le propre d'un RPG de table, je pense. Là.
Oui, ouais.
Difficile à reproduire dans un RPG vidéo. Là.
Non, mais je trouve que, en tout cas, à date, je trouve que c'est bien fait. Là. Au début, mes relations amoureuses, c'était pas mal juste des relations hétérosexuelles. Fait que là, je me demandais si c'était quelque chose. Puis là, non. Après ça, quand le Highwayman puis le Chevalier étaient don en amour, c'était vraiment fucking drôle. Puis non, c'est vraiment random pour tout le monde. Là. Mais c'était beau de genre, « Bro, don't die today, bro. Oh, no. Please don't die today. I couldn't bear it. Huh? » Yeah. C'est parfait. Mais c'est ça, c'est... Après ça, en voyant ça, tu te dis, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, mais qui, genre, mais que la relation, elle aille trop dans le négatif, puis qu'il soit, genre, ennemi juré, là. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais, mais non, c'est bien, bien le fun. J'ai fait 3 games, j'ai pas fini la 3e encore. Puis je me suis rendue jusqu'à la montagne, qui était comme, j'ai l'impression, l'objectif, ou comme justement le donjon. Comme je sais pas, le donjon, depuis le début, ils sont comme, ouh, la montagne. Puis je suis à la montagne, puis j'avais pas d'autre choix que d'aller à la montagne. Fait que, je sais pas si ça va être comme la fin de ma game ou pas, là. Mais j'ai hâte de voir. Mais c'est ça, j'ai l'impression que ça donne des runs pas mal plus courtes que le premier. Et tu peux juste comme t'asseoir pour faire une run puis la compléter.
C'est correct pour un jeu qui est fait pour être recommencé.
Mais c'est ça, c'est quoi qui était.
Choix.
Ouais, le 1, j'avais jamais fini une run d'une shot, là. Ça me prenait des jours. Puis je trouve que c'est plus chiant dans un roguelike quand ça fait des jours que t'es sur la même run puis que là tu fais comme, ok, non. Tout le monde va mourir. Mais comme, c'est que les runs, ils mouraient difficilement dans le 1 aussi parce que t'avais tout le temps d'autres héros que tu pouvais engager, mais là, comme, ils recommençaient à un niveau plus bas, puis il fallait que tu recommences à grinder, puis c'était juste difficile, puis t'sais, on dirait que ça s'achevait pas. Tandis que là,
genre. Tu traînais dans la boîte dans Mode Runner.
Ouais, c'est comme, ça, tu faisais juste continuer.
Ton truc, il est pété, mais tu t'avances de un petit pouce, mais tu continues, puis ça prend 3 heures.
Ouais, fait que là, à un moment donné, c'est plus toi qui disais comme, ok, fuck, genre, je vais scraper ce save game-là, puis je vais recommencer avec maintenant plus de knowledge. Quoi?
Ouais, non, pas cool, ça.
Ben,
c'est pas une bonne expérience de faire. Non, mais effectivement, ce que tu dis, ce que tu décris du 1, pas cool, parce que comme, ben, un jeu où est-ce que le joueur est comme genre, ah, oh, là, ça devient plate, je vais recommencer.
C'est pas que ça devient plate, c'est que ça finit pas d'agoniser, mettons, là. Ouais, ta game, elle agonise, ben, là, pis tu sais que ça fait 3 runs que, genre.
Ouais, c'est comme jouer à Colon de Catane, pis un joueur qui a 2 points d'avance, tout le monde. Tu le sais qu'il va gagner. Il y en a encore pour une demi-heure à jouer à ce maudit jeu-là, mais tu agoniser, sais qu'il va gagner.
Ouais.
C'est comme genre, on peut-tu juste dire que t'as gagné, comme, pis on arrête.
Ouais, moi ça me faisait ça. Je sais pas si ça faisait ça pour tout le monde, là, mais moi, ça me faisait ça un petit peu avec le 1. Mais j'ai l'impression que là, justement, ils ont coupé ces possibilités-là. Vu que tu peux pas juste recruter du monde à l'infini, tu peux juste recruter les classes que t'as unlockées, pis quand t'en as plus. Pis, tu sais, je pense que le pire qui peut arriver, c'est que t'arrives à l'auberge avec 1 ou 2 personnages, tu vas ressortir de l'auberge, tu vas faire 2 pas, pis tu vas te faire péter. fait que la game, elle va être finie, pis on recommence. Mais c'est beaucoup moins... ben t'as perdu, on recommence à zéro. Parce que là, aussitôt que tu recommences, ben là, t'as un écran de genre, voici ce que t'as accompli, voici tout l'XP qu'on te donne pour ton profil de joueur. Puis là, tu montes, ton profil de joueur monte de niveau, t'unlocks tes affaires, puis là, tu recommences avec plus de choses. Non, mais c'est ça, tu recommences pas avec plus de choses, mais tu recommences avec la possibilité de dropper du stock meilleur, genre.
Ouais, ben, comme dans Crypt of the Necrodancer, comme dans le jeu que... Bruno nous avait parlé, le bonhomme il lance des petits couteaux, puis il avait battu le boss avec le petit couteau.
Samurai Gun?
Non.
C'est un autre Rogue Legacy.
Non, moi j'ai pas joué à Rogue Legacy, ouais.
J'aurais pu donner une meilleure description qui permettait de reconnaître le jeu plus facilement.
Rogue Legacy, il va un petit peu plus loin, là. Comme quand tu recommences une game, c'est toujours comme un descendant de ton dernier personnage que t'as joué, fait que c'est drôle.
Puis là, tu peux jouer avec la génétique.
Mais là, j'ai l'impression...
Tu peux traîner des tares génétiques pour longtemps.
Parce que là, il y a comme un narrateur qui te parle dans Darkest Dungeon. Là. Fait que je sais pas à quel point tu recommences tout le temps. Genre, tu recommences à zéro. Ou si c'est pas plutôt toi qui es le sponsor pour une nouvelle équipe d'aventuriers pour aller faire une expédition, genre. Parce qu'il me semble que le narrateur, il est comme au courant que c'est pas ta première game, me semble. Il a l'air d'avoir un overarching story dans le.
Tu peux imaginer que le sort s'améliore dans le pays parce qu'il y a des aventuriers qui ont fait un bout puis ça encourage les autres, mettons.
Peut-être, ouais, peut-être.
Mon Dieu, on est aussi en train de parler du réchauffement climatique puis de.
Peut-être ça, la barre de loading.
Ou c'est un nouveau truc qu'ils ont rajouté dans celui-là, vu que justement chaque classe c'est pas juste il y en a plein puis tu peux juste toutes les recruter puis en avoir 16 de chaque. Tu peux rencontrer des endroits où les personnages vont se rappeler de leur backstory. Ils ont toute une backstory. Pis c'est comme ça que tu unlocks des nouveaux skills pour tes personnages. Donc, au lieu que ce soit une currency, puis tu payes pour. Ben, il faut que tu payes pour les. Faut que tu payes pour les upgrader. Mais pour avoir des nouveaux skills de combat, faut que tu croises l'espèce de shrine où un personnage va se rappeler de son passé, puis là, tu vas avoir un petit chapitre de genre. de genre, c'est qui ce personnage-là, puis qu'est-ce qu'il a fait dans le passé. Donc justement, la voleuse de tombe, c'était une femme riche, mariée à un homme riche qui était un peu un porc, puis là, elle a décidé de le buter, puis là, je sais pas, j'ai juste écouté son premier chapitre. Mais ce que je trouvais ça le fun, c'est qu'il y en a que c'est narratif, puis il y en a un, mettons, le Highwayman, il commence, puis il est en prison, puis tu fais comme un petit combat qui se passe dans le passé, dans ses souvenirs, où est-ce qu'il se bat contre les gardiens de prison. Fait que c'est exactement le même combat de Darkest Dungeon, mais c'est ton dude qui pitch les rushs à un paquet de gardiens de prison. Puis chacun, ah, oh, c'est cool, tu sais, on fait un petit viré dans le passé. Puis je sais pas trop c'était quoi le fail state, là, s'il y en avait un, là. Si j'aurais perdu, peut-être qu'il aurait pas unlock son skill, puis il aurait fallu que je recommence. Mais après ça, t'es comme, ah, oh, new skill unlocked, yay, puis on continue. Fait que les personnages sont plus Gontran le chevalier, t'sais, c'est plus comme quelqu'un plutôt que... Il y a 12 chevaliers. Il y a Gontran, Régent, Paul, Pierre, dépendamment. Si t'es toutes faites crever dans le donjon, ben le jeu va t'en spawner des nouveaux avec des noms générés aléatoirement. Autant que tu vas en avoir besoin, t'sais. Tandis que le nom, il y en a juste un, pis c'est Gontran. Pis il y a une histoire, Gontran.
Fait que c'est toujours le même d'une game à l'autre?
Ouais.
Fait que c'est toujours le même Gontran.
Ah, c'est vrai, hein? Ouais, c'est toujours Gontran. Puis tu peux toujours découvrir sa backstory.
Ton narrateur qui se rappelle, ça fait plus de sens.
Ouais,
j'imagine que s'ils ont dû programmer des relations complexes entre les personnages qui peuvent être générées aléatoirement, en fait, c'est comme normal qu'il ait limité le nombre de personnages.
Oui, oui, ben oui, c'est sûr.
Ah, mais leurs relations n'ont pas tant rapport avec leur classe, par exemple. Je pense que ça a rapport avec leur quirk. Parce que tout le monde peut avoir toutes les quirks. Fait que, ouais.
Ouais, ok, c'est un peu...
C'est vraiment aléatoire, là.
Ouais, c'est tout généré sur... Ouais. La...
Non, ils n'ont pas des... ils ont pas des phrases vraiment custom quand ils parlent à un personnage ou à un autre, là. C'est pas mal tout le temps les mêmes. Ouais. En fait, les phrases sont customisées selon c'est qui parle. Par exemple, le Plague Doctor, elle va dire genre, j'aimerais bien étudier ce move-là, si tu peux bien le refaire. Tandis que le chevalier va voir, ah, je vois que tu as du courage au ventre. Mais ils vont dire ça à n'importe qui. Fait que c'est pas customisé genre la relation entre le Plague Doctor et le chevalier, genre. En tout cas, à date, ils ont pas de call unique pour ça, là. C'est juste que le Plague Doctor va toujours avoir comme une espèce de vision un peu plus analytique, scientifique des choses. Puis le chevalier est comme, haha, you big strong man, me likey.
Est-ce que chaque rôle peut être homme ou femme?
Non.
Ok.
Parce que c'est Gontran le chevalier, c'est jamais Gontran.
C'est des personnes.
Ah oui, c'est pas Gertrude la chevalière.
Non.
Gontran 2.
Gontran 2.
Oui.
Gontran.
Gontran.
Gontran?
Ouais.
Hein?
Ouais. Gaétan. Voilà.
Gontran Marie.
Fait que ouais, c'était super pour jouer.
Y a-t-il quoi qui empêche.
C'est le fun.
Parce que là, comme. Souvent dans les jeux comme ça, quand tu roules un personnage, ça peut être tentant de faire genre, ah, oh, je l'aime pas ce personnage-là. Fait que. Je recommence. Y a-tu quelque chose qui t'empêche de juste faire comme, ah, oh, je l'aime pas, reload?
Je pense que oui. Parce que, coup,
ou genre, est-ce que ça va toujours te reload le même personnage la fois d'après?
Mais je pense que tu peux pas reloader. Okay. Je suis pas sûr. Moi, le jeu, il save au fur et à mesure.
Juste repartir la game au complet du début.
Ah, pis là, comme il y a une méta progression, tu recommences tout. Là,
ouais, c'est ça. Fait que non, ouais, je pense que tu peux vraiment pas reloader.
Okay,
ce que tu peux faire, je pense au début, là, ils vont te donner un personnage de chaque classe, pis ils vont déjà avoir des quirks. Fait que tu sais, comme j'avais la Gravedigger qui avait peur des cadavres. Ben, j'étais pas bien avec une Gravedigger. Parce que si je comprends bien, mettons que t'as débarré, comme moi, en ce moment, j'ai débarré 5 classes, mais c'est des teams de 4. Fait que là, au début, ils me présentent avec 5 personnages, un de chaque classe. Ils rerollent les quirks à chaque game, là, même si c'est toujours Gontran le chevalier, ben, il y a une game où est-ce qu'il va être rapide et swift et habile, puis une autre game où est-ce qu'il va être genre fort et solide et ou en fait ouais, il y a une game où est-ce qu'il va être rapide et habile mais aussi il a peur du noir, puis une autre game où est-ce qu'il va être genre fort et solide mais aussi j'ai peur du sang, genre mais c'est ça, si je comprends bien, mettons la Gravedigger qui a peur des cadavres, si je décide que je la prends pas pour partir, si j'ai un personnage qui meurt, même que j'aille à l'auberge rencontrer un nouveau personnage, ça risque d'être elle. Je suis pas sûre, là. Genre de voir, là. Mais ça va peut-être être genre, c'est hey, celle que t'as pas recrutée en commençant, là. Ouais, c'est elle que t'as là, là. Genre, fuck you, là. Le jeu a roulé ça pour toi, t'es pogné avec ça. Je le sais pas, mais peut-être. Mais ça m'épargne encore. Mais, mais non, le jeu te laisse pas, là. Voici un personnage de chaque classe. Leurs stats ont déjà été roulés. Pis c'est ça que t'as. Enjoy. De toute façon, ils vont acquérir un paquet d'autres quirks puis un paquet d'autres problèmes. Puis la typhoïde. Ça, j'ai trouvé ça crissement drôle, par exemple. À un moment donné, j'ai un personnage qui a pogné une maladie en plus d'avoir déjà pogné une maladie, puis j'ai l'impression que ça l'a override sa première maladie. Fait que je sais pas si c'est quelque chose du early access ou quoi, là. Mais c'est ça, justement, elle avait comme, genre, la diphtérie, puis ça faisait que des fois, mettons, au début, je m'en rappelle plus, là, des fois, c'est genre, au début du fight, au lieu de se battre à son premier round, elle va tousser, fait que là, elle se battra pas. Puis là, elle a eu la fièvre typhoïde, puis là, elle devenait aveugle une fois sur deux, genre. Fait comme ça, mais là, elle avait plus le premier problème.
Mais au moins, elle toussait plus.
C'est ça! Je sais pas à quel point c'est voulu, mais c'est ouais, souvent ben, le genre de choses qui...
Temps...
Ben, c'est pas ça serait de la merde, là, c'est... Ouais,
ouais, si ça stack, c'est un petit peu débile, là. Tu
il y a des
faire
hôpitaux...
des trucs du genre dans Pokémon, là, aussi.
Mais il me semble que dans le... Tu vois, il me semble que dans le premier, c'est genre de shit qui stackait. Puis à la fin, t'avais quelqu'un d'estropié qui manque un jambe, qui a syphilis, puis la fièvre typhoïde, puis il voit plus rien, puis il est nymphomane, puis il faut... Genre, il peut plus aller à l'église parce qu'il est barré.
Alors que dans la vraie vie, c'est le même, ça marche. Sinon... Non, ce serait trop le fun. C'est comme genre, ah, t'as le cancer, t'es en phase terminale, mais gars, on va te donner le rhume, ça va t'enlever ton cancer.
Mais c'est ça, je me disais peut-être que la typhoïde et la diphtérie sont comme battus dans ses poumons, puis il y en a un qui a gagné, là. Mais ouais,
ben, non, ça dépend, que ça peut-être, que ton... peut-être que ton bonhomme qui est toi-même, il a peur du rhume.
Oh my god, ben oui.
La santé mentale.
Il y en a qui ont. Ouais, c'est dans les quirks, là, d'être genre soit super sale, soit beaucoup trop, genre, hypochondriaque, là. Ouais. Puis là, c'est ça, à chaque fois que t'en as un, puis que sa maladie apparaît, mettons, qu'il se met à tousser, ben là, l'autre va avoir du stress parce qu'il y a quelqu'un qui tousse, là. Ouais. Ouais. C'est Darkest Dungeon in a nutshell. Puis là, comme c'est ça, dans le 2 à cause des relations, ben comme, non seulement il va être stressé parce qu'il tousse, mais ça se peut qu'il fasse un commentaire de genre, tu pourrais-tu tousser ailleurs? Puis là, l'autre, il va être triste.
Mets ta main. Tous dans ton coude.
Tous dans ton coude, fucker.
Ils mettent pas de masque dans la charrette. De vrai.
Le Plague Doctor, tout le temps, son masque. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Mais faut que tout le monde le fasse pour que ça fonctionne.
Ouais.
Faudrait leur dire.
Ouais, ouais.
Juste à se faire vacciner avant de partir, gang d'épée. Oh, commentaire social! Humour engagé.
Puis ben, un autre affaire, par exemple, juste une dernière affaire en finissant, ben, full disclosure, j'ai reçu la copie du jeu de la part d'un des développeurs. Donc, voilà, je n'ai pas payé pour.
Maintenant, j'ai le goût d'en avoir une aussi.
C'est ça. Cela pourrait avoir influencé mon opinion sur le jeu, parce que c'est quelqu'un qu'on aime bien, fait que je préfère le mentionner.
Au début, j'étais comme, c'est pas mon genre, je pense que j'ai pas assez de temps, pis c'est plus genre je suis super intéressé.
C'est vraiment le fun. Je suis sûr que le 1 se trouve pour pas cher, là, si tu veux avoir. Si tu veux tester. Pis c'est ça, le 2, théoriquement, il est pas sorti. Pis tu sais, ça se peut qu'il y a des affaires que je dis là qui vont changer dans l'early access.
Et le 2 est vraiment meilleur.
Ben, tu vois, j'avoue que je suis peut-être pas parlé
beau,
des.
En tout cas, le 2,
là. J'ai peut-être pas parlé des négatifs. Moi, je suis moins fan du promenage en charrette que du promenage en donjon. Parce que quand tu te promènes sur les routes en charrette, comme des fois il y a des tas de trucs à terre, puis en rentrant dedans, ça se peut que tu trouves du pain moisi, puis de la vie, puis des enfants de mer, puis des scènes, puis fait que là ça fait que tu te promènes avec la charrette avec WSD, puis là t'essaies de bumper dans toutes les petites tas de feuilles mortes, genre, parce que ça se peut qu'il y ait des scènes. Okay. Puis là tu fais juste te promener en louvoyant de tous les côtés pour essayer de bumper toutes les tas de feuilles mortes. C'est okay, comme un peu gossant, parce que c'est comme je sais pas à quel point c'est pertinent, là.
C'est comme jouer à Oh Dear. Et le jeu...
Pas la référence que j'aurais utilisé, mettons.
Tu frappes 1 million de chevreuils ou que tu dodges 1 million de chevreuils. Le jeu te le dit pas, mais il compte les deux.
Là, ben, j'aurais utilisé une référence plus comme de Sonic, là, mais...
Oh, tu m'as vraiment pas suivi.
Les bonus dans Sonic, qu'il fallait que tu pognes les anneaux dans un
Sonic Land, Sonic Land, Sonic Land.
Je suis pas sûr que c'était ça là.
Tu vas clairement pas si vite que ça là, mais
c'est Sonic,
j'aimais bien.
Mais il a peur de la vitesse.
C'est ça, j'aimais bien les excursions dans les donjons. Là. En fait, ce que je trouve qui est vraiment cool, c'est que j'ai l'impression que ça ne remplace pas nécessairement Darkest Dungeon 1. Parce que je jouais au 2, puis là, je me disais, mais j'aurais le goût de retourner jouer au 1 pour essayer ça, genre les excursions, puis pour voir comment c'était différent. Puis, ouais, j'ai l'impression que c'est comme, on a une bonne formule, on aime ça. On va juste, genre, faire de quoi de nouveau avec la progression, puis voir comme, est-ce qu'il y a du bon que ça les accroche ou pas. Mais j'ai l'impression que pour les hardcore fans, ça ne remplacera pas Darkest Dungeon 1.
C'est comme les vieux jeux de Mario, genre le 1, le 2, le 3. Pas mal différent quand même.
Mm-hmm. Puis tu peux revenir jouer en arrière, puis ça reste que... Mais tu sais, ça reste c'est Mario qui saute, puis qu'il y a des question blocks, puis tout ça, là.
Ouais.
Fait que je trouve ça clever pour une compagnie indie qui tient un produit qui est vraiment un excellent jeu, puis qui a vraiment un bon following niche, mais genre, tu sais, les gens qui trippent sur Darkest Dungeon, ils trippent solide, là. Fait que, ouais, je trouve ça le fun qu'ils ont choisi quelque chose qui est pas juste... une itération de la même chose, que là, ça fait que ça vaut plus la peine de retourner au premier, parce que c'est juste la même chose en un peu plus beau, tu sais. Mais c'est juste comme, c'est différent, ouais. Donc voilà.
Wow. C'est cool.
Ah ouais, je savais pas que les devs l'avaient dit, c'est écrit dans le chat par JC que les devs ont dit que le faire de quoi là c'est différent pour pas invalider le premier. J'ai vraiment l'impression que ça fait exactement ça. Puis c'est ça, pour vrai, en tout cas, à date, quelqu'un, ben, je suis peut-être pas rendu assez loin pour voir ça, là. Mais à date, le premier, il m'a massacré pas mal plus vite, pas mal plus terriblement et profondément que le deuxième m'a massacré, là. Le premier, là, tu fais tes premières runs, pis si tu fais le malheur d'aller choisir une expédition qui est peut-être un petit peu trop difficile pour ta team, pis que ta team est peut-être un petit peu pas prête, là. Tu fais trois fights, pis t'es comme, mais quelle erreur que j'ai faite, moi, là. Je vais retourner au village en un seul morceau en rampant sur mon moignon de jambe, là. Pis c'est ça qui arrive. pis tout le monde a du PTSD. fait que, ouais, c'est juste assez différent que ça risque de chercher peut-être d'autres mondes.
Je sais pas avec quoi enchaîner.
Dread.
Ben, soit ça ou on parle d'un jeu d'ombre. Parce que là, on était dans le Darkest Dungeon. Mais vas-y.
On pourrait faire le recap sur le. C'est tout des jeux spoopy. Ça sort qu'on les a, les jeux spoopy.
Ouais, c'est des bons enchaînements. Ben, on en a fait l'autre jour aussi.
C'est notre.
C'est l'Halloween jusqu'à Noël. Oh, c'est
mais
ça,
tout le temps même. Parce que, en tout cas, moi, je joue tout le temps à mes jeux spoopy à l'Halloween. Fait que ça va tout le temps au week-end d'après, genre.
Puis novembre, c'est comme triste comme moi, là. Encore plus que octobre. Fait que là, t'es comme dans la vibe un petit peu. Oh, la brume, le froid, les fantômes. La torche les citrouilles. Et les extraterrestres.
Oui.
Fait que là, Blob, toi, t'es allé creuser des citrouilles pour leur faire des faces dans des métroïdes.
Ouais, c'est ça.
Prends le métroïde, tu lui envoies le rayon qui gèle, puis là, tu peux graver des faces dedans pour le rendre cute. Puis là, tu mets une lanterne dedans.
Oui, mais il va la manger. Parce que ça mange l'énergie.
Oh.
Ah, ouais, mais il est gelé.
OK, mais il sera plus gelé à cause de la lumière, peut-être.
Bon, parle-nous donc de Metroid Dread.
Ouais, ok, ça a pris genre 11-12 ans avant qu'on ait un nouveau jeu de Metroid, je pense. Mm-hmm.
Ben non.
Ah ouais.
Mais ça compte pas Federation Forces là, sur 3DS pis tout. Là.
Non.
Pis Samus Returns, c'était un remake. C'était
un remake.
Ouais, fait que là, tu parles de Fusion?
Je parle pas
sinon,
de Fusion.
Mettons, ouais.
À la limite, Other M... Sur la Wii.
Oh non. On a. Ça, ce jeu-là
mais
n'existe
Metroid,
pas.
Mais Metroid Prime 3, c'était quand? Ah, 2007.
Ouais.
Ok. I guess que c'était vieux. Tout ça.
Ça fait longtemps. Puis, c'est ça. La série Metroid a comme deux sous-séries qui sont Prime, puis la série principale. Puis, comme les deux ont été mortes un peu en même temps pour on sait pas trop quelle raison finalement. C'est...
Ah, fusion, c'est 2002. Damn.
Ben, ouais, c'est vraiment vieux, c'était sur Game Boy Advance.
Mm-hmm.
Puis il y a eu le remake du 1 qui s'appelle Zero Mission qui est sorti pas très longtemps après, peut-être 2004, 2003,
ouais,
2004.
Genre. Metroid Prime Game Boy. Ouais.
Ah, c'est vrai, oui.
C'est canon, ça.
Ah, ça, c'est. Ah, canon! Ah, piou piou!
Ouais. Malheureusement, ils n'ont pas eu l'idée de garder le style de Metroid puis faire comme Yoku's Express.
Il aurait dû.
Oh, ça aurait été cool, Metroid Prime Pinball, mais que c'est des tableaux de pinball.
Fuck yo! Yeah. Ça marcherait.
Uh-huh.
Ça marcherait, mais ils n'ont pas fait ça.
Genre Metroid Pinball 2.
Quelle occasion manquée.
Ils prennent les devs, ils donnent ça comme mandat aux devs de Yoku Island Express. Ils sont comme, voulez-vous nous faire un jeu? C'est, vous prenez votre concept, vous le reskinez en... Yo, ça marcherait en plus.
Comme quand ils ont fait Cadence of Hyrule.
Ouais, genre.
Ok, ouais. Fait que checky bien. Metroid Dread, on avait vraiment hâte que ça sorte. Puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Metroid traditionnel. C'est comme un vrai Metroidvania. Comme présentement, c'est plus les développeurs indépendants là, qui font les belles affaires sur ce front-là.
Fait que là, c'est la suite directe de Metroid Fusion.
Ouais, c'est la vraie histoire.
Qui tu rouvres le jeu,
ça... Ouais, ça t'explique que Samus, elle a comme sauvé le dernier Metroid, mais il s'est fait éclater pour une raison ou une autre. Puis, sur leur planète, il y avait des parasites que les Metroid mangeaient. Puis ça, c'est le scénario de Metroid Fusion. Au début de Metroid Fusion, il y avait des parasites que les Metroid mangeaient. Eux autres, ils copient des affaires. Puis là, une station spatiale, on décide de les étudier. Puis Samus se fait attaquer par ça. Puis, ben, ils sont capables de faire un vaccin de Metroid avec, genre, le restant du dernier Metroid qu'ils injectent dans son suit, qui ont enlevé tous les morceaux.
Ah oui.
Là, dans Metroid Fusion, il y a un parasite, genre, qui pogne les morceaux du suit puis il t'imite, mais à pleine puissance, tandis que toi, tu t'es fait vacciner avec du Metroid puis t'as plus rien pour te défendre. Là, c'est ça, tu gagnes, tu fais tout péter puis c'est le fun. Fait que quand tu commences Metroid Dread, c'est que quelqu'un a supposément vu un parasite. Et ça s'appelle des parasites X. Là. Supposément, il aurait tout explosé, mais il y a quelqu'un qui en aurait pris un en photo dans la nature, vivant, sur une planète. Puis il faut que t'ailles là-bas pour checker c'est quoi. Il envoie des robots de recherche, puis ça marche pas. Fait qu'ils sont comme... T'es la seule personne qui est capable de battre les parasites X parce que ton vaccin de Metroid est capable de les bouffer.
OK. Ah, c'est pour ça qu'il y a des robots après toi? C'est-tu les robots de recherche?
Ouais, ben, le jeu fait une belle job de garder un paquet de mystères. Fait que tu sais pas pourquoi qu'il y a un parasite X là-bas.
Okay.
Tu sais pas pourquoi on a perdu contact avec les robots. Là, il commence à te courir après. Tu sais pas pourquoi qu'il court après. Il y a un big oiseau en armure qui te pète la face au début du jeu. Comme la première affaire qui arrive, t'as même pas encore joué, tu te fais péter la face par un big oiseau. Comme tu vas le revoir à un moment donné, mais tu sais pas qu'est-ce qu'il fait là.
Mm-hmm.
Puis tranquillement, t'as des bribes, puis tu finis par comprendre qu'est-ce qui se passe sur cette planète-là.
OK.
L'histoire est pas super importante, elle est pas super bonne, mais les moments sont bien apportés. Il y a au moins un autre personnage, deux autres personnages avec qui tu peux parler dans le jeu. Samus parle pas vraiment tant que ça, mais elle dit quelques mots à l'occasion. Puis sinon, c'est de la narration qui vient de ton ordinateur de bord puis un autre personnage.
Attends. Là, t'es en train de décrire Fusion?
Non, là, je parle de Dread.
Ah, t'étais en train de parler de Dread. OK, parce que je t'écoutais.
Oui.
Ça sonne vraiment beaucoup comme Metroid Fusion, ça.
Dans Metroid Fusion, t'as un ordinateur de bord là, qui disent qu'il est copié de ton ancien commandant que t'aimais beaucoup, qui était comme ton père. Puis là, il est encore là, puis il te parle, mais c'est plus impersonnel, un petit peu, là. Mais j'en dis pas plus, là. Il y a quelque chose par rapport à ça.
Oh.
Puis je pense que la manière de raconter l'histoire est particulièrement réussie, même si l'histoire, c'est genre une petite affaire par rapport, là. Comme on en voit tellement, là. C'est une histoire spatiale d'extraterrestres avec de la recherche, puis l'avenir de la galaxie avec une arme super forte qu'il faut que tu détruises. Peu importe. C'est tout le temps ça, puis c'est pas grave.
Comme on dirait que t'étais en train de décrire Star Wars.
Ouais, c'est ça.
On dirait.
Ça fait pas de commentaire sur rien.
Ah non.
Puis tu peux faire d'autres parallèles avec Star Wars que je veux pas spoiler présentement, là, mais en tout cas. Pas grave. Il y a beaucoup de petites cutscenes dans le jeu. Moi, en tout cas, je critique pas les cutscenes, mais pour me préparer pour l'émission aujourd'hui, j'ai écouté des critiques d'un peu partout, puis les gens trouvent que ça brise un peu le flow, la quantité de cutscenes qu'il y a.
Ah.
Parce que c'est des micro-cutscenes. C'est comme au début, t'en as une très longue que tu
Ah
peux
oui.
pas skipper. Après ça, bon, tu commences à jouer, là, c'est un peu un genre de tutoriel. Là, t'as une micro-cutscene pour te montrer que quand quelqu'un te fonce dessus, tu peux le bloquer avec le bouton pour faire la contre-attaque qui va tuer d'un coup après ça. Puis là, t'as une micro-cutscene pour t'expliquer comme les robots, comment te sauver. Puis une micro-cutscene pour te montrer il y a un cerveau central. Ça, c'est cool parce que les cerveaux centrales qui contrôlent les robots sont inspirés de Mother Brain, comme si qui est le boss comme des vieux Metroid. Là. Donc, comme créer un Mother Brain synthétique. Puis ça n'a pas rapport avec l'histoire, mais genre, visuellement, c'est là. Puis il y a des petites mitraillettes autour qui sont pareilles comme Mother Brain dans le temps. Puis c'est drôle. Anyway, là, micro-cutscene pour te montrer ça. Micro-cutscene pour te montrer que t'as changé la hausse de chaleur pour activer les portes. Micro-cutscene pour tout pis rien. Fait que souvent, ton rythme est un peu perturbé. Mm-hmm. Tu peux pas tout skipper, tu peux pas tout contrôler.
Ouais, mais ça...
C'est réussi, ça marche. Comme.
C'est les jeux vidéo en 2020.
C'est
ça, comme...
c'est vrai de ça que j'allais dire. C'est ça.
Si la cutscene a duré une minute, ouais. Je dis pas, mais une micro-cutscene de 5 à 10 secondes, tu t'en rends même pas compte. La seule affaire que je peux me rendre...
Tu t'en rends compte parce que tu contrôles plus ton bonhomme.
Non, la seule affaire que je peux m'imaginer, c'est que les gens qui aiment pas ça, c'est les speedrunners, parce qu'eux autres, ils pourront pas les skipper.
Mais c'est aussi quand ça fait 8 fois que ta voix, là. Comme...
Ouais.
Hey. Les speedrunners sont habitués de vivre beaucoup de crap en jouant à des jeux, là, pis comme des micro-cutscenes, comme « Bon, ben, je peux rien faire ici, là, je prends une pause pour mes doigts, that's it. » Pis genre, comme... peut-être qu'ils chialent une fois, mais après ça, tout le monde s'en fiche, là.
Ouais, ok.
Je suis présentement sur le Discord de speedrun de Metroid Dread, pis les gens, ils parlent pas de ça. C'est...
Bon.
Ils sont pas laides, là, les cutscenes, en plus. Puis, de temps en temps, aussi, il y a un moment où tu peux... Il y a le Speed Booster dans le jeu qui était absent dans Samus Returns. Tu peux faire comme Black Panther. Quand tu cours vite, 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 tu te penches puis t'accumules l'énergie cinétique pour pouvoir flyer comme une fusée dans une direction jusqu'à temps que tu fonces dans quelque chose. Fait que des fois, tu peux comme plus ou moins sauter extrêmement haut s'il y a pas de plafond ou si les plafonds sont détruisables. Puis, il y a quelques endroits où est-ce que c'est prévu pour que tu le fasses là, puis si tu le fais, la caméra, elle change. Comme, de toute façon, pendant que tu fais ça, t'es plus en contrôle, mais c'est toi qui as décidé de le faire. Fait que là, tu revoles, mais au lieu juste que tu revoles normal, la caméra, elle vient comme en dessous pour te donner un plan dynamique de qu'est-ce que tu fais, puis voir que t'as parti comme une fusée, puis tu fonces dans le plafond. Fait que, de temps en temps, ça fait des affaires vraiment brillantes, vraiment le fun, comme ça.
Que t'avais pas à l'époque. C'est ça, c'est des trucs que t'avais pas à l'époque. Ouais. J'aimais bien...
Parce qu'il y en a jamais eu, là, des cutscenes dans Metroid. Sauf dans Other M.
Mais c'est parce que le jeu, il est pas réellement en 2D, il est réellement en 3D. T'sais, fait que, moi, j'aimais bien, là, dans le début, là, Samus attire un laser dans une espèce de porte pour ouvrir la porte. Mais là, comme la caméra, elle se déplace pour que tu puisses voir vraiment... Parce que si tu regardes juste en 2D, tu sais pas trop dans quoi elle tire, pis tu sais pas trop ce qui se passe, là. Mais là, en tournant la caméra, t'es comme, OK, c'est ça qu'elle fait, tu sais. Fait que je trouvais ça cool de... Ça donne vraiment de la profondeur à l'environnement, là.
Ouais, pis tu sais, parlant des environnements, ce qu'on avait développé de vraiment cool dans Samus Returns, ça continue, là. Quand tu te déplaces dans l'environnement, tu vois la profondeur des endroits que tu visites.
Mm-hmm.
Tu vois comme loin où est-ce qu'il y a comme des animaux bizarres qui traversent des rivières. Puis,
c'est joli.
Tu vois genre une espèce de setup d'usine à un moment donné avec toutes comme des espèces de pinces robots accrochés mais qui ont l'air de s'étendre comme à l'infini parce qu'il y a plein de machines, mettons. De temps en temps, des affaires qui se passent en arrière vont te raconter un peu des trucs. Il y a une fois où tu passes à côté d'un mur, puis on dirait que la tôle du mur se déforme parce qu'il y a quelque chose qui frappe l'autre bord. Ça peut pas venir te rejoindre, c'est juste comme tu le vois. Il y a un moment où, dans le background, tu vois une espèce de truc qui bouge comme la queue d'un monstre, mais qui est comme invisible. Tu la vois bouger, puis plus tard, tu vas rencontrer cette patente-là.
Haha.
Ça t'annonce des choses, ça te raconte l'histoire. Il y a aussi des petites critiques que j'ai sur l'environnement, là. L'affaire qu'ils ont faite, c'est que si tu recules dans les anciens Metroid, le terrain que tu peux marcher dessus est en couleur. Puis le fond est noir. Ça, c'est le premier, c'est pas mal ça. Tu remontes au Game Boy, c'est un peu pareil. Puis Super Metroid sur Super Nintendo, c'est un peu pareil aussi. Les fonds sont comme foncés, puis diffus, puis c'est des affaires par rapport, c'est genre surface rocheuse. Puis les trucs où tu peux marcher sont colorés. Là, c'est comme le contraire. Tu vois les backgrounds qui s'étendent à l'infini avec des lumières, des ombres genre dynamiques, semi-dynamiques, avec de la brume. Toutes les parties solides, il y a beaucoup de noir dans ces parties solides-là. Je pense que le but, c'était que ça crée le sentiment d'oppression puis tout ça, que t'es sous terre. Mais comme ça marche un peu, mais je pense que ça aurait pris plus de contraste. Ça aurait pris des moments où c'est l'inverse, par exemple. Puis où est-ce que tu as l'impression de marcher sur quelque chose? Parce que t'as un peu l'impression de marcher sur un système de jeu, de temps en temps. Tu vois comme les carrés en noir, puis comme t'as pas l'impression tant que c'est solide. Tu sais pas la caméra est où. Mais les jeux 2D, c'est comme ça. Tu le sais pas la caméra est où, là. Comment que ça se fait que tu vois comme la tranche de la terre sur laquelle tu marches, là. Mais là, tout est en noir. Fait que genre, est-ce que ça a même l'air solide? Tu le sais pas trop. C'est un peu. Ça fait bizarre, des fois.
Mais est-ce que c'est problématique pour genre savoir qu'est-ce qui est une plateforme versus qu'est-ce qui est dans que tu peux passer au travers?
Puis qu'est-ce qui
Non,
est
pas vraiment.
pétable, puis qu'est-ce qui est pas pétable dans les plateformes,
Ouais, parce que
c'est
ça, c'est quand même
Metroid.
important dans un platformer, là.
Pas vraiment, puis c'est même utilisé à super bon escient, au sens où des fois tu vois une salle, puis là il y a comme un recoin un peu suspect, là, un petit trou dans le mur, t'es comme, non, je vais essayer de tirer, puis là le bloc se détruit, mais au moment où tu détruis le bloc, tout le mur, le dedans qui était noir, ben là ça devient une place où tu peux aller. Le noir s'enlève pour que tu vois que t'as trouvé un secret, que là tu y vas, puis c'était probablement là que tu devais aller. Fait que c'est pas grave. C'est juste que le sentiment de dread qui est dans le titre, je trouve pas que c'est ce qu'ils ont le mieux réussi. Ce jeu-là, c'est pas un Metroid tellement d'horreur, c'est plus du suspense-action. Je pense que Fusion était vraiment comme pas pire fort sur l'horreur. Comme il était bon pour que tu te sentes chassé par le parasite X qui avait ton saut, il l'appelait le SAX, là, pour le Samus X. Puis il faisait quand même pas mal peur. Il faisait pas de cutscene vraiment souvent pour te dire qu'il était menaçant. Il y en a une ou deux des cutscenes où est-ce que genre tu prends un ascenseur puis tu vois le SAX se promener puis là tu vois ses yeux qui ont pas de pupille, genre. Mais les fois d'après, quand tu rencontres cette créature-là, il commence à te courir après, puis te tire dessus, puis tu prends du dommage normal, puis t'as le contrôle. Tu pourras pas survivre, mais il t'enlève pas le contrôle. Il te laisse affronter le truc, puis mourir normalement, là. C'est pas une cutscene spéciale où est-ce que tu meurs, puis. Non, non, c'est le système du jeu. Et ben, c'est pas vraiment comme ça dans Dread. Fait que si Metroid Fusion est plus comme le premier Alien, Metroid Dread est plus comme le deuxième Alien. Où est-ce que le deuxième Alien, t'avais des Marines avec des guns, t'avais plein d'Aliens pis tirent dessus, là. Fait qu'il y a de l'horreur, mais c'est surtout un genre de suspense d'action. Mais c'est un très bon suspense d'action, par exemple. Le mouvement est incroyable. Tout est fluide dans ce jeu-là. Ça vise mieux que dans l'autre d'avant. Tu peux difficilement te perdre aussi dans le jeu. Ça,
Ah ouais.
peut-être Narf va trouver ça vraiment cool, mais il y a 1 million d'astuces pour t'envoyer vers la bonne place.
Attends. Toi, t'as-tu
Il y en a
écouté
tellement qui sont visibles,
Bosky?
là. Ça?
T'as-tu écouté la vidéo de Bosky, Game
Oui,
Maker
mais
Toolkit?
ça fait longtemps que j'écoute Boskies, mais j'avais pas besoin de Boskies pour voir ces choses-là.
Ah, parce que lui, il disait qu'il genre, il était comme genre, ah, je me suis comme pas perdu dans ce jeu-là.
J'aurais aimé ça.
Puis,
Genre.
ben pas je, ben plus ou moins j'aurais aimé ça, mais comme il se demandait comment ça se fait. Puis là, quand il a rejoué une deuxième fois, là, il a vu tous les trucs. toutes quand je travaillais sur Outlast, on appelait ça des anti-backtrack. Quand tu rentres dans une pièce, puis là, il y a de quoi qui s'effondre, puis là, tu peux plus sortir de la pièce. Fait que là, tu peux juste aller en avant. Ça, c'était des anti-backtrack. Ou quand,
classique.
Ou dans Half-Life, il y a ça à tour de bras. Là, c'est comme, t'arrives d'une place, t'es sur une plateforme haute, tu sautes en bas, puis là, tu peux plus sauter assez haut pour revenir en arrière. Fait que là, t'es maintenant, ça t'empêche de revenir en arrière, des anti-backtrack.
Ça, c'est cool parce qu'au lieu d'avoir 50 salles à explorer pour savoir où la suite, là, ils viennent de t'en couper comme 45.
Mm-hmm.
Fait que là, c'est la place où est-ce que t'es, t'as juste 5 solutions à checker. Puis il y en a probablement 4 là-dedans qui vont être comme bizarres, compliquées, que t'es déjà allé là, puis comme... Ça file pas correct, mais il y en a une. Elle a l'air d'utiliser quelque chose que t'as pogné il y a pas longtemps. Tu peux comme te rendre relativement loin dedans. Comme peut-être que tu deviens bloqué, mais ça a vraiment l'air que ça va être par là. Puis presque tout le jeu est comme ça. C'est dommage quand, pour quelqu'un qui joue pour la première fois, tu te rends compte à quel point c'est vrai, tu catches la logique, puis le jeu arrête d'être magique un peu. Là, tu te sens comme si t'es limité parce que tu t'arrêtes pas de voir toutes les portes qui se barrent en arrière de toi. C'est pas toujours... C'est une métaphore. C'est pas toujours réellement des portes qui se barrent, mais il y en a. Il y en a des portes qui se barrent. Puis souvent, en Metroid, ce qui arrive, c'est que les portes qui sont barrées, c'est parce que tu dois juste comme les ouvrir par l'autre bord. Mais normalement, ils sont comme ça au début du jeu, puis une fois que tu les ouvres par l'autre bord, ils sont corrects. Dans celui-là, il y a des portes qui sont ouvertes un moment donné. Puis après ça, il se barre. Puis okay. Même si t'essaies de les débarrer par l'autre côté, ça marchera pas. Faut que t'ailles ailleurs dans le jeu, que tu continues le jeu, puis le jeu va les débarrer. Oh. Il veut juste pas que tu te perdes.
Okay.
Des fois, même si t'es assez niaiseux, là, les speedrunners ont découvert qu'il y a des salles où est-ce que des affaires se barrent. Tu mets en petite boule, tu rentres dans le tunnel, tu vas juste assez loin pour que le jeu il fasse comme... Il est assez loin, puis là, il débarre les choses, puis tu reviens. Puis tous les trucs sont débarrés. Ils voulaient juste comme que t'essayes de sortir par le bon chemin, puis aussitôt que t'as commencé à y aller, il y remet normal.
Ah, ok.
Ça, c'est mêlant, par exemple. Parce que moi aussi, je serais du genre à faire comme « Oh non, pourquoi? » Non, tu sais, à aller gosser dedans plus, puis à me poser plus de questions que quoi que ce soit d'autre.
Ouais. Mais il y a tellement de terrain à explorer que probablement tu t'en rappellerais même pas que cette porte-là était barrée.
Ah, peut-être.
Ce jeu-là est comme un peu énorme puis un peu labyrinthique. Les jeux Metroid sont supposés être labyrinthiques, mais c'est beaucoup basé sur des couloirs puis des shafts qu'on appelle, une espèce de tour avec des plaquettes. Il n'y en a pas ben dans Metroid Dread. Oui, il y a des couloirs, là, tu t'en sauves pas vraiment. Puis des fois, ils sont utilisés à bel effet cinématique, là, comme une tornade de feu là, à un moment donné, mais tu traverses un couloir, il n'y a rien. Mais le background avec une tornade de feu en arrière, elle a une raison d'être super importante en plus. Dans ce jeu-là, c'est que tu as beaucoup d'interactions avec l'environnement. Je pense que dans Metroid Fusion, tu te faisais barrer des portes constamment, mais c'était ton ordinateur qui disait « Ouais, va pas là. Ouais, ta prochaine mission, fais ça. » Il y a un bout, je pense, ça dit « Ah, la climatisation est pétée, faut juste que tu ailles nettoyer les fans. » Puis là, tu vas tirer sur des ennemis pour nettoyer les fans. Puis là, après ça, tu peux continuer. Mais dans Metroid Dread, c'est un peu différent. Genre, tu vas faire diverger l'énergie vers une nouvelle porte. Ben ça se peut que ça éteigne l'ancienne, mais comme pour toujours. C'est pas comme à chaque fois que t'avances, tu débarres des nouvelles choses. Des fois, toi-même, tu te barres des affaires derrière toi.
OK.
Mais pour toujours. Fait que si tu pensais de revenir, tu reviendras pas par là. Ça rend tout un peu labyrinthique. Entre autres parce qu'on essaye de te pousser. Il y a des places aussi où est-ce que tu dois faire couler de l'eau. Ça, c'est le fun. Pour moi, c'est une première. Tu pètes des blocs, l'eau, elle descend à une place, elle monte à une autre place, puis là, ça te permet, genre, de sauter sur une plaquette que là, il y avait de l'eau, fait que t'étais pas capable de sauter assez haut. Il y a comme des petits puzzles environnementaux comme ça. Faire descendre la lave, ça ressemble plus au Metroid en 3D. Les Metroid Prime, il y avait plus d'affaires comme ça. Metroid 2D, tu pouvais pas vraiment faire ça sur Game Boy Advance. Fait que c'est tout un peu du nouveau. Là. Il y a même une séquence du jeu où est-ce que, vu que ton saut est en Metroid, là, on parlait de geler les Metroid, vu que ton saut est fait en ça, s'il fait trop froid, tu vas te prendre du dommage. Il y a un moment où est-ce que il se passe quelque chose, puis il y a un endroit gèle, puis auparavant, il était correct. Fait que t'as comme des zones entières de jeu qui ont... Tu repasses dedans, mais ils ont plus qu'une vie. Hmm. Nous autres, on en a juste une. Mais ces endroits-là ont plus qu'une vie, tu les retraverses, puis comme l'eau est gelée, fait que là, il y a des places que t'aurais calées, mais tu marches dessus.
Ah, oh, mais cool. Ça... Ça, c'est le fun.
Ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué dans Metroid Fusion.
OK, il l'avait fait un petit peu, c'est vrai.
Dans, surtout dans la zone du début, là, tu revenais au moins 3 fois, comme... Tu sais, il bloquait ou il faisait des nouveaux accès dans des endroits, puis là, t'es comme genre, « Hey, je suis venu ici, puis il n'y avait pas ça, mais là, il y a une bébite qui a fait comme un cocon, puis là, je peux plus y aller.
Mm. »
Tu sais, des choses comme ça. J'étais comme... Puis là, plus tard, tu revenais, puis là, le cocon avait éclos. Tu voyais juste les restants derrière. Puis t'es comme, oh shit. Puis il y avait des bébites partout.
C'est cool, ça fait que l'environnement a l'air vivant.
Ben, oui. Mm. Tu sais, puis sachant que c'est ce que j'aimais beaucoup de mettons, Zelda Majora's Mask. Comme, ça avait de l'air vivant parce que, comme, les gens étaient pas toujours à la même place. Il y avait leur horaire.
T'as des affaires qui sont pas disponibles, mais pas parce qu'un designer a décidé de te barrer la porte, parce que, ben là, le dos n'y est pas là. Ou dans Metroid, ben, il y a une plante qui a poussé, là.
C'est ça. Une
plante qui pousse.
C'est ça. Ça semblait plus réaliste que...
Malheureusement, Dread le fait d'une façon un peu stérile et artificielle, des fois.
Mm.
Il y a un moment où il se met à pousser des plantes en feu, qu'il faut que, genre, t'es gel ou quelque chose. Puis comme... Ils n'ont pas rapport avec le biome en particulier. Ils se mettent à pousser n'importe où, là. Fait que tu vois comme, ah, OK, ça, c'est le designer qui les a fait pousser.
Comme, c'est des extraterrestres. Ils peuvent pousser où ce qu'ils veulent.
Ouais.
Ils ne sont pas régis par les lois de ça prend de la terre, puis du soleil, puis de l'eau.
Ouais, je comprends. Mais comme un niveau anormal de propreté aussi dans la grosse majorité du jeu. Comme, les choses devraient être plus comme cassées, puis... graffiné puis tout ça, puis comme
ah, tout est clean.
D'affaires sont ouais. Beaucoup d'affaires sont propres, les environnements sont comme gris dans beaucoup de cas parce que supposément ça ferait plus réaliste, mais mettons Super Metroid, tu t'en vas dans Brinstar, au début c'est genre bleu mauve, t'as une zone bleue, t'as une zone verte, t'as la salle rose, t'as une zone rouge, puis ça c'est comme une zone, il y a comme 4 couleurs différentes dedans. Puis tu vas dans Norfair, il y a la section rocheuse, la section en bubblegum verte, puis il y a la section comme temple qui est avec le boss. Puis... Dans Metroid Red, il y a plus de zones, mais ils sont non seulement un petit peu toutes pareilles en elles-mêmes, mais en plus, ils se ressemblent entre elles dans beaucoup de cas. Il y a énormément de machinerie style usine dans la plupart des zones, ce qui fait qu'on dirait que c'est ils se mélangent ensemble dans ton esprit, là.
Non, pourtant j'avais trouvé ça beau, mais j'ai juste vu le début, puis comme la première zone.
Il y a un truc, c'est que la première et la deuxième zone sont liées d'une façon intrinsèque. Là. Je parlais de l'énergie, tu sais, comme la deuxième zone, tu comprends qu'elle fonctionne avec la première pour y donner son énergie, puis c'est quand même cool. Là. Il y a une zone laboratoire, il y a une zone temple, il y a la place de l'eau. C'est comme le token place avec de l'eau.
Pas le choix.
Il y a la token place que c'est une jungle, mais même si t'es en dessous de la terre, en tout cas. Puis c'est ça, des fois ça se mélange un peu tout ensemble parce qu'il y a beaucoup beaucoup de machinerie partout, fait que t'as comme tout le temps l'impression d'être dans une usine. Pas énormément de couleurs pour les différencier. C'est un peu comme le problème quand on est parti de Majora's Mask à Twilight Princess. Comme Majora's Mask faisait du contraste puis des... pas de l'horreur ou du dark, mais comme il mettait des émotions, des fois négatives, en mettant des espèces de couleurs contrastantes, des espèces de rouge écarlate, puis des mauves dégueux ensemble pour faire comme... C'est un peu menaçant. Puis après ça, Twilight Princess qui faisait du dark en mettant comme des squelettes, là, gris, noir, avec du linge déchiré. C'est...
Mais c'est quoi la couleur du dread?
Plus intelligent, plus... Ouais.
Pas pareil.
Mais quelle est la couleur du dread? C'est dur, mais je sais même pas comment le traduire en français, tu sais.
C'est que l'approche de Twilight Princess file très mainstream, américanisé, comparé à l'approche de Majora's Mask de faire des trucs dark, alien, un peu. Les anciens Metroid utilisaient la couleur comme Majora's Mask, tandis que Dread l'utilise un peu comme Twilight Princess. C'est juste ça que je veux dire.
Mm-hmm.
C'est pas qu'une approche est meilleure que l'autre. Ben, OK, il y en a une que je préfère, là, mais je veux pas dire qu'une est meilleure que l'autre, nécessairement. C'est juste que comme... ça s'accumule quand il y a pas de contraste.
C'est un peu... Tu sais... C'est comme si tu disais, genre, tu sais... Twilight Princess, c'est un peu plus comme, mettons, un Resident Evil, là, c'est-à-dire des trucs d'horreur un peu classiques. Alors que Majora's Mask, c'est comme les jeux d'horreur indie faits par une personne. Que c'est genre tellement bizarre. Puis là, comme... C'est bizarre parce que les couleurs sont bizarres, mais aussi parce que la personne qui a fait le jeu n'a pas exactement du talent pour le faire. Comme Five Nights at Freddy's, mettons, c'est comme...
Comme un fortuit, mais ça participe à l'effet.
Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, comme Majora's Mask fonctionnait pour ça. C'est comme le fait qu'ils ont récupéré garage, les bonhommes. C'est que le fait que c'est les mêmes bonhommes que tu reconnais, mais sont dans des environnements, dans un contexte weird. C'est comme genre... Pas comme ça devrait. Puis pour créer ce feeling-là... De oh, comme ça devrait, ben il faut que t'ailles un comme ça devrait avant. Fait qu'il y avait Ocarina of Time en premier, puis là tu revoyais, puis là c'est pas comme ça devrait.
Juste le Nintendo 64 en général, avec sa façon de faire les effets spéciaux puis tout ça, ça donne un drôle de feeling que comme tout est en carton et rien est normal. Là. Il y a des vidéos entières de genre une demi-heure sur pourquoi que Mario 64 a une énergie négative, genre un gros château vide puis comme la ville sous-marine que tu sais pas pourquoi qu'elle est là, puis tu peux imaginer que les gens sont morts puis ils ont mis une photo réelle d'une ville. Mais avec des filtres dans le background, pis c'est weird. T'sais, ça va jusque dans Zelda, ce genre de feeling-là, que comme le décor est en carton, pis tu sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord.
Ouais, ben là, ça c'était le Nintendo 64.
C'est ça, c'est comme une couche de plus. Le fait que Karina pis Majora étaient sur 64, je pense que ça en rajoute encore sur ce que tu viens de décrire.
Comme, j'avais vu, il y avait un site web... permettait de... Ils ont exporté les maps de Zelda 64 dans Ocarina of Time. Puis ils ont mis... Fait que t'avais une espèce d'outil pour voir, pour manipuler en 3D les maps. Puis là, tu pouvais zoomer, dézoomer, bouger la caméra comme que tu voulais. Fait que tu pouvais dézoomer tellement... Tu pouvais voir qu'est-ce qu'il y avait derrière les murs. Tu sais, mettons, tu dis genre, OK, ça, c'est l'endroit, là. Je pouvais monter la rivière ici... Pis là, comme il y avait des falaises sur les côtés, ben là, tu fais juste lever la caméra, pis là, tu regardes qu'est-ce qu'il y a derrière, pis il y a rien, évidemment, mais comme... C'est là que tu vois que genre, ah, c'est tout petit, c'est comme tout en carton, c'est comme une petite maquette.
Mais, ouais, c'est... Quand le monde va out of bounds en speedrunner, là, c'est... Ouais. Il y a rien dans l'envers du... C'est une montagne, là, mettons, la limite du terrain, c'est une montagne, là, pis là, comme, tu vas out of bounds juste pour aller voir, pis... C'est comme dans Rain Man. Seul film du gars qui vit dans un décor. Excusez. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça.
Je pense qu'il y en a plus qu'un. Moi, celui que je pense tout le temps, c'est Truman Show.
Ah, Truman Show, excuse, oui. Oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi je pense. Je mélange tout le temps. Ouais. T'es comme tout le temps dans le Truman Show. Puis le monde autour de toi, ils ont un rôle, puis ils répètent tout le temps la même affaire. Puis le jour où tu vas sortir de ce loop-là, ils vont être confus, puis ils vont répéter la même affaire. Tous les jeux sont le Truman, tous les jeux en 3D sont le Truman Show. Ouais.
J'ai comme deux gugus pour finir sur Dread. Vas-y avant, mais.
En fait, c'est.
Ok, c'est ça.
Je pense que j'ai perdu mon idée, par exemple. Continue, ça va me revenir.
Okay. Mais c'est pas grave. En tout et partout, je pense que Metroid Dread, c'est peut-être le jeu Metroid le mieux. C'est pas forcément le meilleur.
Okay.
Le mieux au niveau peut-être de la production. Comme c'est clean, ça se contrôle bien, le flow est vraiment intense, tu te perds pas, les nouveaux pouvoirs sont vraiment bons, c'est excitant, on sent bien en jouant ça. Il est pas extrêmement long, mais il y a assez de choses à trouver partout. Juste comme, c'est pas forcément le meilleur pour autant. Mais il est comme mieux pareil.
Mais des fois, tu sais, le plus agréable ou le fun à jouer, ça veut pas dire que ça va être la chose la plus complexe non plus.
Non, c'est ça. Tu sais, j'ai pas beaucoup aimé le dernier tiers tant que ça, parce que t'arrives pis tu pognes des items comme qui supplantent l'un l'autre dans une espèce de cycle où est-ce que t'as bien compris la logique de où est-ce que le jeu il va t'envoyer. Fait que là, comme tu trouves tout de suite les chemins, tu pognes, mettons, un genre de double jump. Puis comme 20 minutes plus tard, tu pognes le jump infini, mettons. Là, tu pognes des bombes pour ta petite boboule, des bombes plus fortes. Puis 20 minutes plus tard, tu pognes les méga bombes qui rouvrent toutes. Comme cet enchaînement de power-up là, il a l'air de servir à rien parce qu'on dirait que les trucs que tu viens de trouver servaient à ouvrir une porte. Puis là, juste pour que tu puisses te rendre à l'autre qui rouvre toutes les portes. Le dernier tiers, on dirait qu'il se fait comme à la course, il est un peu bizarre. J'imagine, tu sais, comme à ce moment-là, c'est le moment du jeu où ils se sont attendus que peut-être les joueurs allaient revenir ailleurs dans la map pour se promener, mais cette map-là est pas confortable à se promener partout. Juste comme, t'as des téléporteurs de quick travel, mais c'est comme les pires téléporteurs de quick travel, puis la seule raison qu'ils ont fait comme ça, c'est pour t'envoyer à bonne place, pour maintenir l'illusion que c'est toi qui cherches, mais qui t'envoie à bonne place. Il y a un téléporteur orange, il t'envoie vers l'autre téléporteur orange. Un téléporteur bleu, il t'envoie vers l'autre téléporteur bleu. Quand tu veux passer d'un point A à un point B sur la map, t'essaies de voir genre il est où l'ascenseur le plus proche, mais des fois t'as comme barré une porte en arrière de toi, fait que t'es comme je vais aller au téléporteur, mais là le vert il va dans quelle zone, puis là tu rouvres la grosse map pour voir lui de où à où, puis là tu pognes le vert, il t'envoie dans l'autre zone, mais c'était comme une nouvelle place qu'il fallait que t'ouvres une porte, fait que ce téléporteur-là, il est pas là pour que tu le prennes tout de suite. Ça marche pas. Il aurait fallu, genre, que un coup que les téléporteurs, ils t'ont envoyé vers la bonne place, peut-être ils perdent leur couleur, puis ils se connectent vers toutes les autres, ou quelque chose.
Ouais.
Il y a pas une bonne logique de map que t'as l'impression que les zones se chevauchent, comme dans Super Metroid. Dans Super Metroid, t'as comme le cratère en haut à gauche, puis le vaisseau avec de l'eau à droite. Tu comprends que juste en dessous, il y a le tableau avec l'eau plus profond. Quand tu remontes l'ascenseur, c'est effectivement là que tu t'en vas. Puis en dessous du cratère, il y a comme l'espèce de jungle. Fait que quand tu t'en vas à droite, tu t'en vas aussi dans l'espèce de tableau avec l'eau profonde. Comme la logique est là, est facile à voir, les trucs ont l'air connectés.
Il y avait ça dans Metroid Prime aussi.
Ouais. Comme des fois, tu prends des ascenseurs, mais les affaires ont quand même l'air de se toucher. Puis dans Dread, t'as l'impression genre que les trucs sont séparés puis tu fais des loadings beaucoup, là. Tu comprends mal qu'est-ce qui est en haut de quoi, là. Tout a l'air des petits cossins. Un peu. À part peut-être les deux premières zones. T'sais, mais ça fait pas un mauvais jeu. C'est super trippant puis t'arrives à la fin puis t'es satisfait. C'est cool. Je l'ai faite 4 fois jusqu'à date parce que j'avais pas beaucoup de temps.
Tu sais, c'est ça, là, comme il y a bien des jeux qui sont comme ça, c'est genre, ben, ça avance, là, tu suis le flow du level design, là, puis comme, tu te poses pas trop de questions, comme... Je sais pas pourquoi, le seul exemple qui me vient en tête, c'est Altered Beast. C'est comme, mais tu sais, tous les jeux de fighting game, ben pas fighting game...
Rise from your grave, là.
Ouais, non, mais les... Oui... Les jeux de punching, là, t'avances, puis tu punches des affaires, puis tu poses pas trop de questions sur l'enchaînement des niveaux, puis quelle porte connecte avec quelle porte. Là, je pense... Oui, je sais que c'est un beat'em up, mais...
C'est avant Sonic 3 que là, les zones, ils se connectaient.
Sonic 3, les zones se connectaient?
Ouais, à la fin de... Ok, Sonic 3, premier tableau, c'est la jungle vers la fin, elle pogne en feu, genre pour le boss. Puis le
Ah oui.
tableau 2, la jungle est en feu. Puis au boss, Knuckles te fait tomber dans une chute. Puis là, le deuxième monde, c'est le monde dans l'eau. Puis après le monde dans l'eau, genre tu te fais shooter ailleurs, genre mettons par un canon, je sais plus quoi. Puis là, c'est comme le casino. Puis là, tu t'en. Non, mais c'est pas tout à fait ça, là, mais comme. Il y a comme
Mais
des micro-cutscenes pour te dire pourquoi tu t'en vas dans l'autre affaire.
ouais, ça faisait que tu avais plus l'impression que c'était un long jeu plutôt que des levels. Mais l'exemple est aussi valide pour genre. Non, Half-Life, c'est plus connecté parce que tu n'as jamais le.
Et moi, il n'y a pas de coupure, là.
Mais toutes les Mario, genre, tu sais, comme tu te poses pas. Ou même le jeu de Sonic dont tu parles, le Sonic 3, là. Comme. T'es jamais en train de te dire, genre, tu sais, oui, il y a des transitions, mais t'es pas en train de te dire, genre, ah, oh, là, je suis rendu en dessous de la cascade du level 1. C'est comme, non.
Non,
T'avances dans le
effectivement.
level, là. Puis comme.
Au
Ben, c'est
moins,
pour ça
Mario
qu'il n'y a
3,
pas.
Mario World, il y avait un genre de map, là.
Bon. Et là, oui, comme JC dit, on a réussi à parler de Sonic dans un bout
Effectivement.
où est-ce qu'on parlait de Metroid. Parce que. Parce
Fallait.
que, c'est. On a juste une vie.
Fait qu'anyway, Dread, c'est quand même un super bon jeu. Je me chicane pas avec le prix, même si je peux comprendre que certaines personnes trouvaient que c'était cher pour le type de jeu que c'est, puis peut-être la longueur. Genre, on fait
Ouais.
pas ça, hein, on a juste une vie, là, de dire, ah, oh, ça m'a coûté tant de dollars de l'heure de jeu, là.
Ouais,
Pas ça,
on le fait plus
mais
maintenant.
ok. Mais quand
Il y a
même,
aussi
toi.
des limites supérieures, des limites inférieures, des fois, là.
Ouais, mais toi, mettons, ça t'a pris combien de temps de faire le jeu?
Je pense que j'ai fait ma première run relax en 10 heures, ma deuxième run relax
Oh,
en à
quand
peu près
même.
la même chose parce que j'ai fait le hard mode 100% des items.
Ok.
Ça, c'est juste le temps rapporté par le jeu parce que je pense qu'ils coupent les loadings là-dedans, genre l'horloge interne calcule pas les loadings, puis quand tu meurs, puis tout ça. Fait que c'était plus long que ça, là.
Ok, mais quand même, 10 heures, c'est un jeu à combien qu'il vaut?
Mais c'est
80$?
parce qu'il est le même prix que le nouveau God of War, mettons.
Ouais, ben c'est ça, là. C'est
Il est
un
le
peu ça.
même prix que, mettons, il est le même prix que Breath of the Wild, man.
Ouais, mais y es-tu 3 fois
Excuse.
meilleur par heure? Est-ce que chaque heure est 3 fois meilleure pour juste.
Bon, même ça
Je sais
qu'ici au
pas.
podcast, genre, on a d'autres choses à faire de notre vie, fait qu'on apprécie les jeux qui se finissent, genre, quand même
Ouais,
dans un délai raisonnable, fait
ouais. Ouais, mais je paye pas
c'est.
80$ pour des jeux. Moi, ça me
Ouais,
dérange pas
c'est ça, y
quand le
aller.
jeu était 20-30$. Mais à 80$, là, je commence à me poser des questions. Je
Ouais.
sais pas.
Puis l'affaire, c'est que c'est
Je
un
sais
jeu
pas.
Nintendo, fait que tu vas jamais le pogner en vente. À
Laissez-moi
moins
juste une
que.
micro-minute.
Oui.
Ah.
Mais c'est ça, et que les jeux Nintendo, comme, ils vont tout le temps valoir cher, même à la revente, même aux usagers, puis la version neuve, elle va jamais baisser de prix. Fait quoi, ouais, c'est un passé si bien parce que tu l'auras pas ben ben en bas de ça, là. Ouais. Même dans 5 ans, même dans 10 ans, peut-être. Ouais.
C'est vrai, mais c'était comme, je sais pas,
Non, mais c'est un
sur
passé si bien. Comme.
ben, t'es allé au EB Games puis tu pouvais les acheter, je veille.
Mais les jeux de Nintendo First Party,
Oui, Nintendo baisse pas le prix
non,
sur
mais
son
c'est ça, ils
store.
seront jamais genre fucking pas chers. Ouais.
Je sais pas, ouais.
Ah, je checkerais, c'est comme les jeux de Pokémon, là, genre la valeur, elle vient de repartir comme pour certains jeux, puis c'est genre personne, genre les gens ont de la misère à l'expliquer là, comme comment ça, genre tout d'un coup c'est rendu fucking plus cher, mais c'est comme ça. Il continue à y avoir de la demande, puis ben, ça n'a jamais baissé de prix. Fait que. C'est pas comme, comme tous les jeux digitaux. Ben, tu sais, même digitalement, Nintendo s'arrange pour que la valeur, elle baisse jamais vraiment, puis ils font jamais des grosses ventes qui vont justement dévaluer leur jeu, là. Tu sais, c'est vraiment pas comme tantôt, je vous disais, Darkest Dungeon, si vous voulez jouer au premier, ben, allez le chercher, là. Sûrement qu'à un moment donné, ils vont être en vente à 5-10$ sur Steam, là. Tu sais, les jeux de Nintendo s'affichent juste pas ça.
Quand je suis revenu, on avait un genre de question. Est-ce que les piastres chaque heure de Metroid vaut je sais pas combien d'heures de n'importe quel autre jeu avec le même prix? Mettons. La vraie réponse, c'est si je compare avec Breath of the Wild, comme vraiment pas. Breath of the Wild, non seulement j'avais plus d'heures pour chaque dollar, mais comme c'était pas des heures remplies de rien, là. C'était des heures que comme je cherchais plein d'affaires. Puis Breath of the Wild, ça réinventait l'essence de la vie, là. Metroid Dread, peut-être
Ouais, c'est ça. Mais
Mais ça
le jeu
fait 15
Metroid
ans
le
qu'on...
meilleur.
Ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu un autre Metroid.
Ouais, Metroid Dread, c'est juste un très bon jeu de
Ça
Metroid.
vaut
Ça
tout ça.
fait rien de tant nouveau que ça, là.
Oui, puis mais y a un problème en plus, c'est qu'il y a eu 15 ans entre. Puis il y en a eu des bons, tu sais, des bons Metroidvania. À l'époque, il y en avait pas beaucoup, c'était rare, fait que quand t'en avais un, t'étais content. Mais là, il y en a plein. Comme
Ouais.
les indie games sur Steam, c'est rien que des estis de Metroidvania à trois bras. Comme je suis plus capable, là, quand quelqu'un parle de son nouveau projet, je suis Ah ouais, je pense à un jeu là, ça va être un peu Metroidvania. Je suis comme Ah, oh, pas toi ici.
C'est pas
Fait
juste ça, là.
Le pire, c'est que je suis désolé pour les auditeurs, je peux pas vous dire si c'est un des meilleurs du genre parce que j'en ai pas vraiment essayé d'autres.
Ben
Comme
c'est
j'ai
ça,
même
comme
pas fait beaucoup de Castlevania de la nouvelle formule. Tu sais, comme j'ai essayé les vieux, là. Un petit peu de 1, 2, 3 sur NES, mais comme c'est pas
Puis
ça.
comme, tu sais, il y a Yoku's Island Express aussi, qui est comme, tu sais, fait comme des c'est ça, là, comme des jeux style platformer, exploration, tu sais, je sais pas, il y en a eu plein, fait que là, c'est comme la compétition, tu sais, de Nintendo, je trouve ça un peu... Ben, je sais pas si c'est arrogant de la part de Nintendo ou juste comme ils sont déconnectés. Ça feel un peu
Ben,
comme
c'est leur
où est-ce
gamin
que
de
les
compagnie,
fans de
t'sais.
Metroid des années de v'là 15 ans sont comme j'ai joué à aucun autre Metroidvania depuis, j'attendais juste Metroid. Fait que là, ils vont
Ah
jouer le
non, je
nouveau
pense pas.
Metroid puis ils vont être contents.
Je pense pas.
J'espère pour eux autres. Mais en même temps, j'ai envie de leur dire comme il me semble qu'il y en a des meilleurs, qui vont peut-être qui vont être moins chers, qui vont peut-être être meilleurs. Ça sera pas Metroid, mais ça va être comme d'autres.
Mais je suis sûr que ça s'adresse aux gens qui voulaient un Metroid, là. Comme les gens qui ont
Ouais.
joué à Hollow Knight puis qui sont bien contents avec ça, ben ils continuent à jouer à Hollow Knight puis sont bien contents avec ça, là. Fait non, c'est sûr que mais Nintendo est tout le
Ouais,
temps
c'est
à
ça.
part là-dessus, là. C'est pas une question ils vont pas étudier le marché pour décider c'est quoi le prix de leur jeu. Ça va tout le temps être full price, puis c'est ça parce qu'il va y avoir des gens pour l'acheter, puis c'est les gens qui achètent les produits Nintendo, les gens qui ont des consoles Nintendo, donc qui ont pas nécessairement. Là, c'est sûr, avec la Switch, on a accès à pas mal plus de jeux indie maintenant, mais ça a longtemps pas été super le cas. T'sais, si t'avais quand t'étais jeune, si t'avais une Wii chez vous, ben t'achetais des jeux de Wii, puis c'était souvent des jeux Nintendo parce que c'est juste ça que tu pouvais jouer sur ta Wii.
Comme
Mais ouais.
je comprends les gens
C'est
qui
à bord,
discutent
là.
le prix là, mais
Ah, oh, ouais. Non, c'est un passé si bien. C'est juste que Nintendo est vraiment un peu à part dans le discours de jeux vidéo, là. Par rapport à, mettons, PlayStation qui vient de faire une division de jeux PC puis qui va mettre le premier God of War. Ben, le reboot de God of War sur PC. Puis là, tout le monde est comme, What? Ben, tu sais, ils ont eu le temps, là, ça a été un exclusif depuis quoi, 5 ans? Fait que le but, c'est. Genre, les gens qui l'ont pas acheté encore sur leur PlayStation, ben, ils en ont pas de PlayStation, fait qu'ils l'achèteront pas. Fait qu'on va le mettre sur PC, puis on va aller chercher une nouvelle niche de gens, puis tu sais, c'est logique, là. C'est toute logique, là. Mais c'est beaucoup plus du push
Juste que
and
ça.
pull de marché, puis de la compétition avec Xbox, puis PlayStation, puis tout, tandis que Nintendo, il joue sa game de son bord. Comme, avec ses règles.
Ben, il y a le sujet des itérations aussi, là, quand, mettons, Zelda sur la Wii est sorti, il y avait la vieille formule, là, puis ils ont fait des affaires pour la changer. Mais après ça, ils ont itéré comme 5 ans plus tard, puis ils ont fait comme, vous aimez ça, Zelda, mais là, on fait un Zelda nouveau genre. Le problème avec Metroid, c'est que ça faisait genre 15 ans. Puis là, c'est comme, vous aimez ça, Metroid Fusion? On réinvente tout. Ouais, mais c'est parce qu'on voulait comme un peu la même chose. Puis là, il était pogné pour faire un peu la même chose. Fait que nécessairement, il réinvente pas la roue. Si le dernier Metroid avait été pareil comme depuis toujours, puis était sorti il y a 5 ans, puis là, il aurait fait, on réinvente la roue, ça se serait vendu. Mais de réinventer la roue à partir de rien dans le vide, quand les gens s'ennuient de l'ancien concept, ça se fait comme pas, là.
Je pense que je trouve juste que ça feel
Intéressant.
Disney pas mal. Tu sais, dans le temps Disney, c'était comme genre acheter la cassette VHS maintenant, parce que sinon elle va aller dans la voûte. Pis là, elle va plus, on le vendra plus, comme, on le sait que vous le voulez, mais il va aller dans la voûte, pis là, on le vendra plus pendant un petit bout. Pis ça, c'était juste une manière de faire gonfler les prix, genre, pis... Tu sais, en réalité, qu'est-ce que c'était? C'était pas qu'il y avait une voûte, c'est juste que les magasins, il y avait une surface limitée, pis comme à un moment donné, ils arrêtaient de produire des cassettes, parce qu'ils arrêtaient d'en vendre, pis ils étaient comme, bon, on arrête des ventes, fait que là, on va arrêter.
Mm-hmm.
Pis là... 5 ans plus tard, oh, on fait une réédition sur DVD de La Petite Sirène. Dépêchez-vous de l'acheter là avant qu'il retourne dans la voûte. T'sais, aujourd'hui, c'est genre, t'sais, dépêchez-vous de le regarder avant qu'on l'enlève de sur Disney+. Comme, non.
Ouais. En tout cas. Et Disney+, ils ont toujours rien enlevé. Là. C'est sûr qu'ils sont dans le premier 10 ans à comme former leur marché. Là. Comme toutes les compagnies font une affaire géniale pendant 10 ans, puis après ça, ça devient genre le double du prix, puis il n'y a plus rien.
Mais ils viennent pas de faire ça, Disney+. Ça vient pas d'augmenter le prix.
Ils ont peut-être commencé, je sais pas.
Il me semble que j'ai un ami qui a acheté ça genre cette semaine. Là. Qu'ils ont augmenté le prix genre vraiment beaucoup.
T'sais, ils vont augmenter de 50%, ils vont perdre 12% de monde à cause de ça, puis ils rentrent full dans leur argent. Oh. Mettons.
Genre.
La dernière affaire, Gab avait parlé dans le chat, j'ai comme perdu le chat sur mon téléphone où est-ce que je le suivais, là, mais Gab, il parlait du Discord de speedrun de Metroid Dread où est-ce qu'on faisait la séparation des bugs mineurs puis majeurs, là. Comme, je sais pas si vous savez, mais en un mois, le jeu, il est cassé au bout, là. Le jeu, il est super cassé, là. Il y a même pas des bonnes runs qui intègrent toutes les glitches parce qu'il y en a trop. Mais c'est pas tant qu'il y en a trop. C'est qu'ils sont fondamentaux. Fait que là, ce qu'on sait, c'est que t'es supposé avoir un gun particulier pour tirer à travers les murs. Ben, t'en as pas de besoin, parce que tu peux comme clipper dans le mur, puis tirer à travers le mur. Et tu peux skipper cet item-là, puis whatever, genre les boss, puis les cossins que t'es obligé de faire pour y aller, tu peux les laisser faire.
Ouais, mais là, peut-être que Nintendo, ils vont sortir une patch.
Il y a déjà eu une patch où ils vont en avoir une, puis il me semble qu'ils ont dit de un qu'ils feraient pas ça, et je pense qu'elle soit elle a été data-minée, ou soit elle est vraiment sortie, puis comme il y avait rien de ça, là. Ils ont juste réglé un crash quand ça loadait, je pense.
Ok.
Il y a pas grand-chose qu'ils peuvent faire pour patcher sans mettre beaucoup de travail dans certains cas, parce que ça a rapport avec mettre des espèces de panneaux de solidité autour des affaires au cas où tu clips. Ou sinon, faut comme que t'empêches que ça clip. Fait qu'il faut probablement que tu modifies l'engin de physique ou des
trucs.
Ouais,
ouais, ouais. Si tu veux pas faire ça.
Fait qu'on sait que dans certains murs, il y a des murs invisibles qui entourent les objets pour t'empêcher de clipper puis de tirer dedans, mais ça marche quand même à certaines places. Fait qu'on peut tirer à travers certains murs, on peut tirer à travers beaucoup de planchers. Y a une manière pour sauter avec des bombes dans l'eau, même s'ils ont essayé de t'empêcher de le faire. Fait que là, comme plein de zones que tu peux accéder. On peut passer à travers certains planchers en courant vite puis en faisant un backflip.
Pis, comme dans la vraie vie.
Mes deux affaires préférées qui viennent de sortir, là, c'est que quand tu rentres dans une zone de ennemi, tu peux comme... te mettre en petite balle ou sortir de ta petite balle, pis si tu le fais comme à la bonne place, tu vas comme balancer bizarre pis t'es invincible pour toujours. Jusqu'à temps que tu prennes un ascenseur ou que t'ailles dans une cutscene. Passe à travers les ennemis pis touche pas, mais t'as toutes tes capacités. Toi, tu peux les tirer, tu peux ramasser les drops, tu peux activer les affaires, tu peux ouvrir les portes, tu peux tout faire pis t'es invincible. Tu peux aller dans les zones avec de la lave, courir dans la lave, même si t'as pas le saut pour la chaleur, le jeu s'en fout, t'es invincible. C'est vraiment génial. Sauf si t'as une cutscene, là tu vas le perdre. Fait que si tu veux aller faire un boss comme ça, tu peux essayer. La salle du boss, ils ont oublié de programmer la chaleur dedans pour que tu passes le boss, mais aussitôt que tu vas sortir de là, vu qu'il y avait une cutscene, là tu vas te manger du dégât chaleur. Ou plutôt, non, il y a un genre de failsafe étrange. Quand tu loads dans une salle qui devrait être chaude pour la première fois, elle load pas avec la chaleur, juste comme pour pas que tu te soft-lock. Au cas où, genre, tu réussirais par mégarde à passer dans la mauvaise salle, si tu reloads ton checkpoint pis t'apparais dans cette salle-là, ils vont te laisser, genre, au moins sortir de la salle avant de te mettre du dégât. Puis, comme clairement, c'est pas à cause de la salle en particulier, c'est à cause qu'il y a une sécurité pour éviter de te tuer pour rien. Genre, ils ont voulu faire ça. L'autre truc, là, c'est que c'est un jeu 3D, mais qui est coupé en 2D. Mais tu peux changer ton axe, puis regarder en avant, en arrière, vers la caméra.
Puis avoir l'air d'une grosse maquette, mais une grosse maquette plate.
Puis là, c'est... Ouais, et là, tu peux changer ton angle que tu regardes. Non, pas ta caméra, ton bonhomme. Ton bonhomme peut courir vers toi.
Ah, OK.
Mais il n'y a pas de... Tu peux pas sortir du plan, mais il n'y a pas de mur. Fait que ton bonhomme, il court comme s'il courait à l'infini, mais il n'y a rien. Mais là, ça fait quoi? Tu peux charger ton speed booster, tu peux pogner ta charge de Shine Spark, puis après ça, tu peux débarquer de cet axe-là, puis tu peux aller utiliser ton mode fusée dans un trou d'eau que t'étais pas supposé pour pouvoir skipper le saut de lave avec l'invincibilité, puis le saut pour l'eau avec l'autre cossin. Fait que tu peux finir le jeu avec pas les sauts qui sont supposés de te permettre de passer les obstacles, puis qui d'ailleurs te donnent plus de défense. Fait que là, t'arrives au boss final avec une tank de vie puis aucune défense, puis il va te one-shotter, mais tu peux le battre.
Of course.
Fait que là, c'est quoi les glitches mineurs puis majeurs là-dedans? Mais n'importe quoi qui passe à travers les murs avec ton bonhomme ou qui te met invincible, c'est des glitches majeurs. On les a votés cette semaine. J'ai participé d'ailleurs, pour le fun. Puis n'importe quoi qui est comme tirer à travers les murs puis faire des petits trucs par rapport, c'est mineur. Tu peux aussi barrer la caméra à une place, puis là, faut que tu te promènes à l'aveugle parce que tu vois plus ton bonhomme, mais il y a des affaires qui sont pas loadées, fait que tu peux comme aller chercher un pouvoir de fin de game vraiment de bonheur à cause de ça. Mais faut que tu connaisses le layout puis que tu navigues au son.
Oh my god.
Ça, c'est le troisième affaire préférée.
Oh yeah.
C'est là qu'on est rendu, puis ça fait un mois que le jeu est sorti. D'après moi, on va pouvoir le finir en une heure. D'habitude, c'est pas mal ça l'objectif. Là. Le premier Metroid te récompensait pour le finir en une heure. Tu veux finir un jeu de Metroid en une heure, d'habitude.
Blob, je trouve que pour quelqu'un qui voulait finir à 9h30, tu nous parles, t'as beaucoup de choses à dire sur Metroid Dread.
Ouais. Correct. Mais Anne-Marie aussi, elle avait trop d'affaires à dire sur Darkest Dungeon, puis c'était vraiment super intéressant.
Ben oui!
Toujours interpellé, mais là, je l'étais vachement.
Ben oui!
C'est ça, la vie. Désolé, on a coupé un peu ton sujet. Je sais pas si tu veux encore en parler ou si tu fais un mot de la fin avec ça.
Je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire avec ça?
Parce que tu t'avais déjà parlé de ce jeu-là l'autre semaine. Fait,
ouais, ben ça mérite pas un full sujet, mais on pourra dire que ça va être un gros mot de la fin, mettons. OK.
OK.
J'avais joué à Shady Part of Me. On se rappelle, c'était le jeu que genre tu contrôles une ombre en 2D, un platformer 2D, puis tu contrôles en même temps la petite fille qui produit l'ombre en 3D.
Tu contrôles et la fille et son ombre en alternance.
Ouais, c'est ça.
OK.
Puis la dernière fois, tu sais, j'avais souligné les points intéressants du jeu. Mais là, je continue à jouer. Comme je l'ai toujours pas fini, parce que c'est comme pas mal plus long que je pensais. Puis là, comme les trucs qui étaient un peu weird deviennent des points où est-ce que là, c'est rendu gossant. Comme la petite, les deux personnages. T'as l'ombre pis la petite fille, c'est pas la même voix, évidemment, pour qu'on puisse savoir qui parle. Non, au niveau du voice acting.
Et... Ah, tu dis qu'elle avait peut-être pas tout à fait la même personnalité?
Ouais, non, c'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Ils vont s'ostiner pis ils vont argumenter.
C'est un voice actor différent ou c'est juste quelqu'un qui fait deux voix?
Je le sais pas.
Moi, dans ma tête, c'est Batman.
Ouais, mais c'est ça, ça pourrait être la petite fille qui est genre. Je pense qu'on devrait faire ça. Non, moi, je pense qu'on devrait faire ça.
Ouais, son ombre est genre, where is he?
Ouais, genre, mais si c'est ça, ça se pourrait. Mais comme, parce que la voix de l'ombre, c'est une voix de femme plutôt grave. J'ai envie de dire, de sortir des références, mais vous ne les connaîtrez pas. Lunara dans Heroes of the Storm, mettons. Elle a une voix comme grave.
Okay.
Mais la petite fille en, en, en chair, on va dire, celle qui est pas en ombre.
Le vrai.
Elle, elle a une voix gossante!
Oh non. C'est une petite
parce
fille.
Que c'est vraiment une adulte qui se force à parler comme un enfant.
Ah, pour vrai, ok, c'est pas une petite fille?
Non.
Mais le personnage, c'est une petite fille, mais tu veux dire la voice actress, c'est pas une petite fille?
Non, 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 c'est une femme qui parle un peu.
Mais là, c'est-tu ça le personnage?
Non, c'est une petite fille.
Ok, dans... ok, c'est bon.
Comme elle a l'air d'avoir genre 8 ans, 10 ans max, là, comme moins. Tu sais, on la voit pas vraiment parce qu'elle a des cheveux tout le tour de la tête, genre. Elle a des cheveux longs, comme
okay.
Tout le tour de la tête, fait que peu importe dans quel sens, tu vois jamais sa face.
La petite fille dans le
Pis. Fait qu'elle a juste sa petite voix gossante de main. Pis comme elle est tout le temps en train de chialer, c'est comme genre, non, je veux pas! Comme ta gueule, ok, gars, on a compris. Puis ça m'amène à mon deuxième point. La narration puis l'histoire. Comme. On sait jamais où est-ce que ça s'en va. Puis c'est au point où est-ce que, comme. Ça me gossait parce que j'étais comme. C'est quoi les. T'sais, si tu me demandais de te dire c'est quoi l'histoire de ce jeu-là, c'est comme. Ben, il y a. La petite fille pis son ombre, il essaye de s'échapper d'un espèce d'asile ou d'école ou de pensionnat. Mais, tu sais, si tu me demandais de dire genre, ah, dans le acte 1, acte 2, c'est quoi le arc des émotions? C'est comme, j'en ai aucune idée. Parce que, tu sais, t'as les deux personnages, t'as la petite fille, t'as son ombre, t'as un troisième personnage qui est comme le texte affiché dans le décor.
Okay.
Qui serait comme un personnage, mais que je suis pas sûr, c'est comme, est-ce que c'est un narrateur?
Est-ce que
les
c'est
pensées
qui écrit?
Profondes de la petite... Oui, c'est du texte, écrit.
Qui est écrit,
en okay. 3D dans l'environnement. Genre, souvent qui va être révélé.
Okay.
Tu vas activer une lumière, puis là, tu vas activer une switch, puis là, ça va tasser quelque chose, puis là, tu vas voir du texte en arrière. Ou t'allumes une lumière, puis là, dans la lumière, tu vois du texte. Ou t'avances, puis le texte fait juste apparaître dans le décor pendant que t'avances. Pis genre, on sait pas, tu sais, je saurais pas te dire, est-ce que c'est comme les pensées profondes de chacun des personnages, l'ombre et la petite fille? On le sait pas. Pis aussi un quatrième personnage, genre, que c'est genre une voix d'homme, comme si c'était comme un professeur de l'école du pensionnat, genre, ou un thérapeute, un psy, qui donne des conseils. Mais il y a un ton super paternaliste qui gosse. Puis, fait que bref, t'as la petite fille avec une voix gossante, le gars avec un ton paternaliste, puis tous les personnages, à chaque fois qu'ils parlent, tu pourrais répondre, mais de quoi? Tu pourrais te poser la question, mais de quoi tu parles? Parce que c'est jamais clair. Ils disent de quoi, puis ils sont comme, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Comme, à chaque fois, chaque phrase, chaque mot, c'est comme, de quoi tu parles, calice? J'ai joué tous les petits jeux, je suis rendu à la fin, pis je sais toujours pas de quoi tu parles. Parce que c'est comme écrit flou, genre.
Mais c'est pas le but, justement, que ce soit nébuleux, pis mystérieux, pis
non.
Critique, pis. Non!
C'est comme de la Non, c'est comme de la poésie d'enfant de seconde. Non, c'est comme un scénario d'étudiant au cégep qui se trouve bien cool d'écrire un scénario un peu flou.
Ok.
Pis que t'as tout le temps envie de dire, genre, comme. J'ai aucune idée de quoi tu parles dans ton esti de scénario, comme. Ça peut-tu être moins clair? C'est pas cool. Tu sais, il y a des films où il y a des scénarios, des romans que tu lis, puis comme t'es capable de lire entre les lignes, puis tu comprends, puis tu fais que genre, oh,
tu
c'est
sais
clever.
C'est quoi qu'il y a derrière, là, ouais.
C'est clever, puis là, tu te sens intelligent. Ça, il y a. C'est comme s'il y avait rien. Ou s'il y a de quoi. C'est comme une pièce de théâtre où est-ce que les personnages parlent, puis comme, disent des. Je peux pas le limiter parce que c'est vraiment tough, mais comme c'est incompréhensible. Puis comme c'est parce qu'ils vont utiliser beaucoup des pronoms. Fait au lieu de parler de genre quelque chose, ils vont faire genre ah, Who are you? Puis là, t'es comme à qui tu parles? Tu parles-tu à la voix gars que je viens d'entendre ou tu parles à ton ombre ou tu parles au texte? C'est comme, à qui tu parles? De quoi tu parles? Tout le temps! Ça gosse. Bref, ça gosse.
Okay.
Fait que comme à cause de tout ça, comme tout l'aspect narratif du jeu, c'est comme... Il y a des dialogues, les personnages parlent. C'est, ils pourraient parler une autre... Ils pourraient, ça pourrait être dans une autre langue que je comprendrais plus, genre.
Fait que c'est pas le fun que ce soit cryptique et nébuleux.
Puis ils sont tout le temps... Puis ils vont toujours se contredire. Ils sont comme genre, « Ah, je sais où je dois aller. » Puis l'autre, sont comme, « Non, tu sais pas de quoi... Où est-ce que tu t'en vas? » Puis là, l'environnement suivant, c'est l'autre qui dit genre, « Maintenant, moi, je sais où est-ce qu'il s'en va. Non, tu sais pas où est-ce qu'il s'en va. » Puis c'est comme, ça mène nulle part, cette conversation. Comme, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu es un scénariste qui était comme genre, « Bon, ben, il y a 50 puzzles dans tout le jeu, puis il faut que j'invente une histoire. » Qui se raconte avec deux personnages, une voix et du texte. Et, ben, je sais pas. Puis là, il est comme. Il écrit des affaires. Puis c'est ça. À cause de ça, comme le gameplay, tu sais, tu résous des puzzles, puis il y a de la narration, puis aucun lien entre les deux. Comme à part qu'ils s'en vont, ils essayent de s'échapper.
Ouais, c'est ça.
Puis ils sont tout le temps en train de s'ostiner sur qui c'est, où est-ce qu'il faut qu'ils aillent, mais c'est comme. Comme on a compris, là, comme arrêtez, là, comme j'ai compris là, après la première scène, là, vous pouvez arrêter de vous chicaner puis de vous obstiner à savoir qui c'est, où est-ce qu'ils s'en vont. De toute façon, il y a juste un chemin. Je fais juste avancer.
Ouais, c'est un jeu linéaire, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est juste du banter pour le principe.
Tu fais le puzzle, tu avances. C'est même plus que linéaire. C'est genre, à chaque fin de zone, t'as comme deux spots de lumière puis il faut que t'amènes les deux petites filles, un dans chacun des spots. Pis c'est comme ça que ça va révéler, tu sais, comme tu vois le reste du level, il est comme tout blanc bizarre.
Ah, ok.
Fait que tu sais, comme faut que t'avances les deux personnages, puis c'est ça qui va révéler le reste du tableau, puis parce que sinon tu pouvais juste pas avancer. Puis il y a beaucoup de anti backtrack pour reprendre le vocabulaire de l'autre jeu, qui t'empêche de revenir en arrière. De toute façon, il y a aucune raison de revenir en arrière. Fait que ouais. Comme je veux juste le finir à ce point-ci, je suis comme je veux juste le finir. Puis je sais pas pourquoi je me force autant parce que ça me fait pas du bien. I guess que les puzzles sont corrects. Il y en a des bons, il y en a beaucoup que c'est juste ben gosse avec les switches jusqu'à temps que tu l'ailles.
C'est plate parce qu'il me semble que t'étais vraiment positif dessus le deux semaines, non?
Ben, le début du jeu était nice. C'était clever, comme la manière dont il te révèle les personnages. C'est comme, ah, c'est clever. Mais.
Mais des fois,
c'est ça. Je pense que le jeu, il est juste beaucoup trop long.
Ouais, c'est ça.
Il a juste. Il aurait pu couper la moitié des puzzles, la moitié du dialogue. Ça aurait été meilleur. Il n'y avait pas assez de narration pour pouvoir faire un jeu comme ça. Puis les puzzles sont corrects. Mais tu sais, je finis pas les puzzles en faisant comme « Haha, I'm so clever ». C'est juste comme « Ok, j'ai trouvé ton esti switch que tu voulais que je fasse. »
J'ai enfin trouvé le gugus. Ouais.
On peut-tu finir? Puis c'est pas un bon feeling à avoir dans un jeu. Heureusement, c'est un jeu à genre 10$, fait comme 15$. Je sais plus combien j'ai payé ça. Qu'est-ce que je veux juste le finir? J'avais juste hâte de le finir pour pouvoir aller jouer à Dark avec un cul.
Mais t'es pas obligé de le finir, là. Comme si j'aime bien ça, genre me dire j'ai commencé, je vais le finir. Mais tu sais, rien qui nous.
Parce qu'à chaque fois, je pense que je suis proche de la fin.
On a juste
comme,
une vie.
Ok, je suis proche de la fin, je vais juste le finir. J'en ai pour à peu près une demi-heure, une heure.
Ça, je vais raconter un secret que les gamers aiment pas entendre, là, mais justement, moi, quand j'étais cœuré d'un jeu, là, des fois, je vais vérifier si je suis proche de la fin ou pas en regardant un guide sur Internet. Puis là, si je vois qu'il en reste vraiment, vraiment gros, là, je fais fuck off.
Ouais.
Si je vois que je suis au dernier niveau, là, je fais comme ok, ok, c'est bon, fini, là. Ça m'arrive. Les gamers TM, ils aiment pas beaucoup ça.
Quand j'ai refait Metroid Dread pour pogner 100%, genre à un autre niveau de difficulté pour unlocker des petites images dans ma galerie, j'ai pogné un guide puis je l'ai fait de même. Mais en fait, je regardais une route de speedrun, j'ai fait la route de speedrun le mieux que j'étais capable. Je l'ai pas fait vite, mais comme j'avais une route efficace au moins.
Mm-hmm. T'avais un routing, ouais, c'est ça, de juste où aller. Ça fait une différence d'avoir un routing plutôt que de juste constamment frapper tous les coins jusqu'à ce que tu trouves le bon, là, tu sais, ouais.
Mais je m'en rappelle plus, genre, si c'est la porte de gauche ou de droite à telle place. Je pense que je me souviens qu'après la boule, c'est les bombes, mais je, comme. C'est bizarre ce jeu-là, fait que.
Bon, comme, c'était comme un très long mot de la fin. Ouais. Là, on va pas reparler de Metroid Dread encore.
Oh, c'est une pierre.
C'était ton mot
la
de la
semaine
fin.
Prochaine. On peut en parler la semaine prochaine.
C'est sûr. Ouais, je sais que tu vas en reparler. Ça va faire comme Sonic.
Si j'ai fini la run 0%, je vais pouvoir dire que j'ai fait la run 0%. Ça va être ça.
Fait que. Ah, oh, Anne-Marie, t'as-tu un mot de la fin? Parce que tu serais
là. Non, c'est bon. Non, j'ai parlé de Darkest Dungeon en masse. C'est
bon, mais il est fini, ce podcast-là.
Ben oui.
Il est fini.
On a fait un bon podcast, finalement, mais on avait des sujets.
Plus de On a juste une vie dans votre vie, vous pouvez vous abonner. On est sur PeerTube, Twitch, YouTube, Apple Podcasts. On est sur Discord. Allez sur notre site web, onajustunevie.ca. Et trouvez tous les liens. Donnez-nous 5 étoiles, votez des pouces ou des whatever que c'est qu'il y a sur Twitch. Merci aux gens dans le chat. Même si JC chiale que son message a pris 5 minutes à envoyer. Je trouvais aussi qu'il y avait un long délai. Merci à Blob et Anne-Marie d'avoir été avec moi ce soir.
C'est plaisir.
Et on se retrouve la semaine prochaine parce que
on a juste une vie.